Salut à tous, bienvenue sur le Pain Cave Podcast, saison 2, épisode 3, il me semble. C'est bon, on démarre bien, on est consistant sur la saison. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'un habitué, hein, j'ai envie de dire. Amaury, comment ça va?
Bah, très bien, merci de m'avoir de nouveau.
Oh, bah, toutes les semaines, c'est un plaisir.
Ça devient une habitude.
Ah, c'est une habitude qui fait toujours autant plaisir.
Ah, hein, bah, voilà.
Et nous avons aussi quelqu'un de moins régulier, mais qui est toujours apprécié quand elle est sur le podcast, Cécile. Comment ça va?
Ben, c'est gentil de m'avoir, très content d'être ici aussi.
Ah, merci, ça fait plaisir. Alors, on va suivre un peu le format... Ah non, avant qu'on fasse ça. Cécile l'avait fait déjà un peu le résumé de son été, mais depuis qu'elle a fait le résumé de son été sur l'épisode 1 de la saison 2, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez tout le résumé de l'été sportif de Cécile. Mais aujourd'hui, il faut qu'on lui demande quelque chose. Est-ce qu'elle a fait quelque chose en plus depuis ce dernier épisode?
Entre-temps, oui.
Entre-temps, elle a eu un petit semi-marathon à Amsterdam. Comment ça s'est passé, Cécile?
Ma foi, ça s'est bien passé. C'était cool. J'ai pas eu une préparation comme je voulais. Au début, je me suis inscrite plein d'ambition. J'avais une semaine de plus que mon inscription
toujours des bonnes préparations.
C'est-à-dire qu'au lieu de 3 semaines, j'en avais 4. Là, je me suis chauffée, je me suis dit, oui. Ah, c'est bien.
Et si vous commencez la course à pied et vous voulez faire un semi-marathon, n'écoutez pas Cécile.
Oui, voilà.
Ne faites pas la même chose.
Participez un peu plus.
Ah, du coup, j'étais pleine d'ambition et tout. Et j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux qui sont un peu toujours là. Mais du coup, je n'ai pas pu m'entraîner autant que j'aurais aimé. Bon, j'ai fait un petit trail quand même d'aller au semi. Donc, c'était
15 km, c'est ça?
Ouais. Donc, j'étais pas non plus complètement. J'ai couru un peu, mais pas autant que je voulais. Et étant donné que j'avais l'objectif de faire sous les 1h45, vu que j'avais pas réussi à le faire au semi de Berlin. Et puis voilà, on est parti à Amsterdam. Bon, j'avoue que du coup, j'étais moins préparée. On a aussi fait la fête le vendredi soir, le semi était le dimanche.
Du coup, n'écoutez vraiment pas Cécile dans la préparation.
Oui. Surtout si vous voulez votre record perso.
Oui, voilà.
Bah, on était parti juste pour faire un resto et en fait, on n'a jamais décollé du resto.
C'est les meilleurs restos, ça, quand tu restes des heures et tu continues à...
Comment ça s'appelait? La Contessa, une taqueria La Contessa?
Ah bah voilà, une petite reco.
Une petite recommandation à Amsterdam. Le gérant du resto est super cool, un Mexicain. Il nous a rincé. Il a fermé le resto, on était toujours à l'intérieur. Il nous a rincé, bouteille de vin. Comment ça s'appelle?
Vous étiez Margarita? Vous étiez un groupe de filles, presque. J'imagine.
Non, en vrai, on était avec quelqu'un qui le connaissait. Donc,
d'accord. Ok.
Il y avait Irène, Léna, moi, mais il y avait aussi Julio qui connaissait le gérant qui habitait à Amsterdam. Du coup, c'est pour ça aussi. Non, quoi, le mezcal. Petit mezcal. Petit mezcal. Ouais, non. C'était pas prévu, mais on a bien fini notre vendredi soir.
Vous êtes bien amusés, quoi. Vous avez profité du week-end.
Ouais, on a bien profité du week-end. Et du coup, petit semi dimanche. Et franchement, organisation semi d'Amsterdam, bof, je ne recommande pas, honnêtement. En gros, toute la journée, ils ont le marathon le matin et le semi l'après-midi. Ouais. Et ils ont d'autres courses et tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, il y a du 8 km, il me semble.
Ouais.
8.
Ouais.
Le semi et le full.
Le full.
C'est même pas un 10, ouais, je crois que c'est un 8 km. Ouais.
Et du coup, c'était clairement moins bien organisé. En tout cas, j'ai trouvé que le semi de Berlin et tout, c'était en plus un genre de rolling start, au moins pour le semi, à notre au moment où on est parti. C'était plus un rolling start. En gros, ils nous ont laissé passer dans la file. Et après, il n'y avait pas de départ annoncé par vague, quoi.
D'accord.
Du coup, il y avait plein de gens qui étaient hyper lents devant nous. Enfin, il y avait différents paces.
Oh, excuse-nous.
Non, mais franchement, il y avait vraiment des rythmes différents.
Ça me l'a fait sur le 5 km de Berlin.
C'était super dense en plus au niveau des gens. Enfin, il fallait vraiment se faxer entre des types. Il y avait sur la piste cyclable, il y avait les vélos qui roulaient encore. Donc, en gros, tu sautais entre les trucs de tram et le trottoir. Tu sautais sur le trottoir, tu étais sur la piste cyclable, tu avais des vélos qui voulaient tomber dessus et tout. Franchement, c'était un peu une galère. Mais bon, écoute, ça s'est quand même bien passé.
La prochaine fois, tu commenceras plus vers l'avant.
Ouais,
nous, on n'avait pas eu de souci avec Olivier, en vrai.
C'est vrai. C'est pas moi qui me suis inscrite, du coup.
Ouais.
Je n'avais pas décidé... Voilà quoi, j'ai récupéré le bip de quelqu'un. C'est pas un hasard que je me suis inscrite 4 semaines avant. Je crois qu'il n'y avait plus de bip, donc j'ai récupéré le bip de quelqu'un. Comme d'habitude, tu vois, un peu à l'arrache. Mais en gros, c'était bien, il a plu aussi, donc ils n'étaient pas...
Ouais, ça, Amsterdam,
ouais.
Fallait
mais tu sais, avec le vent et tout, en vrai, j'ai eu... je pense, plus froid qu'au semi de Berlin. Alors qu'au semi de Berlin, franchement, il avait fait vraiment froid. Mais oui, j'avais couru en manche longue aussi, là, j'étais en manche courte.
Ça peut être un indice.
Ça peut être un indice.
Oui, bon, après, j'avais trois couches sur moi au semi de Berlin. C'est un
qui avait doudou,
je prends des bardeurs.
C'est vrai, mais j'avais pas prévu qu'il allait faire si froid. En vrai, avec le vent et la pluie, du coup, il y a eu des moments où il faisait bien froid. Mais c'est sympa. J'ai essayé de draguer un gars aussi au début du semi. C'est là où j'ai perdu des secondes.
Attends, ton final, t'as fait objectif 1,45, t'as fait.
J'ai fait 1,45 et 6 secondes.
C'est ça, tu as voulu draguer au début.
C'est le bonhomme.
C'est le bonhomme. Tu l'as retrouvé au moins après ?
Non.
Ah bon, oh là là,
mais
le temps caché.
Il y a Fer qui l'a vu parce qu'Fer est arrivé avant moi et Léna, avant Léna et moi. Elle l'a vu passer parce qu'en vrai, on avait toutes le même tank top là, le même débardeur.
Ouais, tenue. Ouais.
Alors qu'on avait floqué et tout, donc on était contentes pour se repérer et tout. Et il y a ce gars qui courait en même temps que nous au début, qui était habillé pareil que nous et tout, du coup.
Ah d'accord, c'est comme ça que tu engages la conversation.
J'ai fait ce
petit. Et ça t'a coûté 6 secondes ces petits regards.
Sûrement, ouais.
Alors qu'en plus, il a terminé devant toi, t'aurais dû essayer de le suivre. Peut-être qu'il t'aurait emmené en moins d'une 45.
Je pouvais pas. J'avais pas les... Je pense qu'il a bien terminé bien avant moi. Et non, mais du coup, ça s'est bien passé. C'était juste vraiment blindé et tout. Donc ça a été assez difficile de garder un bon rythme. Ouais. D'être, parce que du coup, t'accélères, tu ralentis, t'accélères, tu te faxes entre des gens et tout, tu sautes sur les trottoirs et tout. C'était un peu... fatigant.
Et je sais que le marathon à Amsterdam, c'est ça aussi qui est super chaud, c'est quand tu pars dans le stade, tu dois passer par la sortie du stade et quand tu es dans les vagues où il y a plein de monde, les gens marchent en fait, ils perdent grave du temps. Alors qu'il faut être genre dans les premiers sas pour pouvoir courir tout
mais
du long.
Mais le semi démarrait pas du stade.
Non, je sais, ouais. Le semi démarre pas du stade, il démarre dans la rue qui est pas loin, la rue principale qui arrive sur le stade olympique et tu pars vers l'extérieur de la ville direct.
Mais du coup, quand tu fais le semi, tu as encore des gens qui finissent le marathon ?
Ouais. Et ça, quand coup, tu c'est... les doubles, tu te dis, waouh, les pauvres.
Et c'est ça qui est. Donc, déjà, tu as des gens. En fait, c'est assez bizarre parce que nous, devant nous, il y avait la Wave. Genre, je crois qu'ils avaient un truc business ou corporate avec plein de.
Ah, mais ça aussi, je pense que ça t'a mis dedans. Parce
qui était devant nous. Et en plus, au bout d'un moment, quand tu arrives à la fin, tu te rends compte qu'il y a aussi des gens qui finissent encore leur marathon et tout. Donc, ouais, c'était un peu une galère. Et de toute façon, je crois que la course la plus longue que j'avais fait pour m'entraîner. C'était le 15 km du trail. Donc, autant te dire que j'ai commencé à sentir quand j'ai passé 15-16 km, c'était un peu dur. J'étais bien au début. Ouais. Et quand j'ai commencé à arriver aux 16 km, ouais, c'était un peu dur. Même si, franchement, les derniers kilomètres, c'est la partie la mieux de ce marathon, je trouve. Tu passes dans le parc et tout, c'est assez cool.
Les derniers ?
Ouais. Et dans le stade et tout, c'est la partie la plus cool parce que le reste, bon, j'ai pas.
Ouais, c'est jusqu'à 13K, t'es un peu dans des zones industrielles.
Ouais, exactement.
Mais c'est ça qui est pas mal. T'es un peu plus, genre on va dire les deux tiers, c'est un peu paumé. Et du coup, quand ça commence à être un peu plus dur, on va dire, vers 14-15, tu retournes dans le centre-ville, tu longes les canaux, après tu vas sur le parc. Et tu
franchement, heureusement, parce que c'est ça qui m'a fait un peu tenir et tout dans le parc et tout, c'était cool. Il y avait bonne ambiance, il y avait beaucoup de monde.
Pour le prochain, il faudra faire un vrai plan d'entraînement.
Ouais, non, c'est vrai.
5 semaines,
parce que là, ça va faire une 40.
Elle n'est pas entraînée, elle fait une 45-06. Si elle s'entraîne à courir, si tu t'entraînes à courir, tu fais.
Non, bah, après, j'étais pas entraînée, mais je fais quand même beaucoup de sport. J'étais pas non plus complètement là.
Je pense qu'on sous-estime le fait de vraiment faire de la course à pied spécifique pour la course à pied.
C'est possible.
Si tu fais beaucoup de kilomètres, tu vas beaucoup progresser assez rapidement.
C'est possible. Mais bon, je n'étais pas non plus complètement à la rue. On va pas...
Bah non, tu n'es pas à la rue, tu fais une 45 quelque chose. C'est vraiment c'est plus qu'honorable.
Je me suis fait un sprint de malade sur la fin. Je ne pensais même pas que c'était possible. Parce qu'en vrai, quand j'arrive dans le stade, je regarde ma montre et là, je me dis « Ah, c'est chaud, je sens que je vais passer à côté pour quelques secondes. »
Putain, je ne me rappelle plus combien on doit faire dans le stade. Est-ce qu'on fait 200 mètres ou 300 mètres dans le stade ? Je ne me rappelle plus où tu arrives.
300 mètres, je pense. Parce que j'ai vu à un moment la barre des 150 mètres. J'étais déjà dans le stade. Donc, je pense que c'est plus que 200.
D'accord.
Bref,
250.
Franchement,
c'est un record du monde sur le 200 mètres pour battre 1,45
secondes.
J'ai vu ma montre, j'ai fait non, c'est horrible. Et je voyais Léna, elle était juste devant moi. Léna qui a fait 1,44,58, je crois. Du coup, j'avais vraiment la haine.
en tout cas, félicitations sur cette petite épreuve de automne. Pas mal.
Ouais.
Et puis maintenant, ça va partir sur le home trainer.
Ouais, je ne l'ai pas encore installé, mais dès que je rentre de vacances, là, je pars 2 semaines en vacances en Turquie. Dès que je rentre, je le remets.
Ah là là, ça revient dans sabbatical de 3 mois et ça repart direct 2 semaines en vacances. Bon, enfin, sur ces beaux mots, parce qu'on n'a pas tous la même vie que Cécile. Hein,
ils connaissent ceux qui posent des jours de travail.
Voilà. On va revenir à la réalité. Après cette introduction fascinante, merci Cécile.
Alors, je cherche un bib pour le semi de Berlin. Je dis ça aux gens de Adidas qui ont des accès sur des bibs.
Bah, commence déjà à parler à tes collègues product manager de running, ils pourront t'aider.
J'en connais aucun.
Et bah, t'as le temps là de les connaître.
C'est pas trop tard. Ouais.
C'est en avril le semi. Alors, bon, alors pour aujourd'hui, on va partir. Maintenant, on va commencer le format habituel. Après avoir découvert autant d'informations sur le Weekend Amsterdam de Cécile et la petite recommandation qui est le restaurant mexicain.
La Taqueria La Condesa.
Ok, Taqueria La Condesa.
Un truc dans le genre.
On part sur le format habituel, donc news insolite. Ensuite, les faits marquants. Je pense qu'on a pas mal de faits marquants, parce qu'il y a des choses qu'on avait oubliées aussi là,
oui.
La dernière fois, on n'en avait pas parlé. Et ensuite, on va aller sur les recommandations. Je pense que là, ce sera un peu plus court, parce qu'on n'en a pas tout. Je crois qu'Amaury en a bien. Moi, je ne suis pas sûr d'en avoir, et Cécile non plus. Donc bon, on va commencer tout de suite par une news insolite. Peut-être que vous l'avez vu passer dans les news entre... Les mauvaises ambiances dans ce moment, il y a cette news qui est passée. Un magasin de sport a fait une opération commerciale bien particulière. Mais en quoi consistait cette opération commerciale?
C'est une marque bien connue?
Non.
C'est un magasin de sport dans un pays européen, américain?
Oui, européen.
Ouais. Ah ouais. Genre en Allemagne?
Non.
En France?
Oui.
C'est un magasin qui revend plusieurs marques, du coup. C'est pas un magasin d'une marque en particulier.
Exactement.
C'est un petit Décathlon, non?
Non, c'est pas un petit Décathlon.
Est-ce que si on trouve, est-ce que l'endroit où ça s'est passé est important? C'est une grande ville ou un village?
Moi, je non, ça a pas d'incidence.
Pas... Et si vous trouvez une chaîne quoi, c'est non, genre c'est localisé dans une ville.
Je crois qu'ils ont deux magasins.
Ok.
Dont un à Lyon d'ailleurs, il me semble.
Ah ok, c'est vraiment un.
Il me semble
deux magasins.
Est-ce que c'est là où le magasin est situé, ça a un intérêt pour?
Enfin, c'est à peu près la question que je viens de poser, non?
Oui, c'est un peu. Pour ça, je.
J'écoutais pas, désolé.
J'étais là, bon, bah, on va répondre quand même à la question de Cécile, hein, pour pas qu'elle sente exclue. Mais non, du coup, ça n'a aucune incidence. Okay.
Je crois qu'ils ont deux magasins, dont un à Lyon, d'ailleurs.
Ou alors, comment tu sais?
Bah, je sais pas.
Oh, bah, dis donc, t'es bien informé, toi.
Non, mais je me suis dit que c'était peut-être l'autre qui, du coup. Enfin, ouais,
voilà. Non, c'est aucune incidence. Mais on va dire que ça, même le fait qu'ils aient deux magasins, ça ne vous sert pas. Okay. La localisation du magasin ne vous sert pas. Si vous trouvez le magasin, vous pouvez peut-être savoir ce qu'ils font. Ça peut vous donner peut-être un indice. Mais
ils font de la course à pied ou ils font plusieurs sports ou
C'est plus focalisé course à pied.
Course à pied.
Est-ce que c'est un genre de truc, genre tu perds du poids, tu peux avoir une discount sur une taille en dessous, un truc comme ça?
Non.
Est-ce que c'est lié à l'actualité, ce qu'ils ont fait?
Non. Putain, c'est l'actualité, l'actualité du moment.
Il y a plusieurs actualités. Quoi.
Oh là, moi, je... C'est vous n'êtes responsable que de vos mots, monsieur Amaury. Hein. Vous êtes le seul responsable.
Non, pas ce genre d'actualité. Donc, c'est pas lié à ça.
Et ça a fait un buzz positif ou un buzz négatif?
Non, c'est positif.
Ok. C'est pour
c'est
encourager
drôle,
les
quoi,
gens...
C'est un peu décalé, quoi.
C'est un peu pour encourager les gens à se mettre au sport ou c'est quoi un peu le...
Non, c'est pas pour encourager les gens à mettre au sport. D'ailleurs, ça peut encourager les gens à faire quelque chose de pas bien. Oh, là, c'est un problème.
Ça encourage les gens à faire quelque chose de pas bien.
Est-ce que ça a marché? Ça a été efficace ou c'était plus pour le coup de com?
Bah, ça a plutôt bien marché, je pense.
Et c'est lié à un sport particulier?
Course à pied?
Ouais, c'est lié à la course à pied.
Est-ce que c'est lié à la performance que tu peux faire en course à pied?
C'est pas lié à la performance que tu peux faire, non.
C'est lié au nombre de courses que tu prépares?
Non.
Ni à la vitesse, ni au kilomètre, rien du tout lié à la performance.
On peut dire que ça peut être lié à ta vitesse.
Est-ce que si tu allais à une certaine vitesse, tu pouvais avoir une discount sur...
T'es sur la bonne voie, fallait aller à une certaine vitesse.
C'est genre le même truc que ce qu'ils avaient fait avec Kipchoge, si tu arrives à courir à la même vitesse que le nouveau recordman du monde, un truc comme ça?
Non.
Sur tapis?
C'est pas ça.
Est-ce que tu pouvais... voler un truc et si tu courais vite, tu ne faisais pas choper.
C'est ça.
Non.
C'est ça.
C'est vraiment, il n'y a que les Français qui veulent faire ça.
Mais il y a un twist. Il y a un twist. Attends, ce n'est pas si simple. Alors, je vais vous lire. Alors, entre vidéosurveillance et portique sécurisée, les magasins sont de plus en plus protégés contre les voleurs. Pendant une journée, les clients du magasin Distance à Paris ont cependant été laissés libres de voler impunément dans la boutique. Pire, ils y ont été invités. Je ne trouve pas que ce soit pire, je trouve que c'est mieux.
Du coup. Vu comme ça.
Les voleurs, entre guillemets, devaient cependant respecter une condition, réussir à semer le vigile du jour, qui n'était nul autre que Meba Michael Zézé, l'un des meilleurs sprinteurs du 100 mètres en France. Donc, voilà.
Donc le gars, il a passé sa journée à des sprints.
S'ils y parvenaient, les clients étaient libres de conserver les objets dérobés dans le magasin. Donc cette opération publicité décalée du nom de Rob It to Get It, pour les non-English speakers, veulent-le pour l'avoir, a eu lieu le 13 septembre dernier, donc ça on s'en fout. Elle a été organisée par Distance, ils l'ont déjà dit. Ils ont posté une vidéo qui retrace un peu la journée. Donc tu vois les gens, même dans le magasin, des fois ils se font choper direct dans le magasin. Quand tu es dans le magasin à distance, il y a une table centrale où ils mettent les accessoires. Donc tu vois les gens, ils sont autour de la table comme ça avec ses yeux de l'autre côté qui essaient de les chauffer. Alors, Michael a couru suffisamment vite pour limiter le coût de l'opération pour nous. Merci à lui. A salué Guillaume Pontier, le fondateur du magasin, qui a remercié le sportif pour sa participation. Si cette initiative décalée peut surprendre, la marque avait un objectif bien précis en tête à travers cette opération, remettre le sport au cœur du sportswear. Voilà.
Okay.
Et
ouais, c'est vraiment c'est un truc de français. Franchement, il n'y a qu'en français.
Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que, en vrai, ça devait être bien contrôlé, du genre une personne dans le magasin à la fois ou des choses comme ça. Ça, j'ai pas de détails là-dessus. Parce que, et même, ouais, t'es un sprinter, tu dois faire des sprints tout le temps. Il y a un moment, faut bien être chauffé.
Il faut faire ça pendant une heure ou deux.
Ouais, sinon, tu te pètes. Après, un des meilleurs sprinteurs français, il s'est pété en faisant une activité commerciale. Trop cool.
Dans un banc.
Et il y a deux personnes qui ont réussi sur 76, je crois. Sur 76 tentatives, il y a eu deux tentatives qui ont réussi. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même pas mal couru. Hein,
c'est pas...
sprint. Il a fait une sortie longue. Hein. Ah oui, sur les 76 personnes qui ont tenté de voler dans le magasin, seules deux ont réussi à échapper au coureur de l'équipe de France d'athlétisme, qui était déguisé ce jour-là en vigile. Oui, donc la vidéo, on voit, il a un peu genre un costume. Donc du coup, mais quand il court, tu vois, il rattrape direct. Mais genre, tu vois la forme de sprinter, quoi.
Oh, ceci dit, je pense que même s'il n'était pas déguisé, je suis pas sûr que je le reconnaîtrais.
Non, je pense pas que je le reconnais. Je vais vous dire quand même.
Je l'ai vu quand il était au championnat du monde, du coup. Mais
c'était lui ou son nom, les deux y étaient. Parce qu'ils sont frères.
Deux frères, ouais. Ah oui, alors du coup, lequel des deux, oui.
Bah, je vais vous dire un peu, c'est.
Mais bon, de là à le reconnaître dans un magasin.
Ah, je pense. Bah maintenant, je pense que peut-être que je le reconnaîtrais. Bon, 29 ans, année 94. 1m77, 74 kilos.
Voilà.
Si je prends un kilo, je peux ressembler à. être aussi musclé que lui. Ah, bah c'est pas mal ça.
Allez.
Oh, bon, c'est parti. Hein. alors, non, je voulais un peu trouver ses meilleurs temps. En 2011, il court déjà en 10 secondes 57.
Tu crois que tu aurais pu le semer, Flo ?
Non, je pense pas. Je pense pas en vrai. Beaucoup trop rapide.
Par contre, je suis sûr qu'il aurait participé.
Il faut le faire slalomer.
Championnat du monde.
Aurait participé. Clair et net.
Si j'avais su, j'y serais allé.
Il faut tenter. Hein. J'aurais tenté un produit de la concurrence, tu vois, pour voir après à quoi ça ressemble. Quoi. Il était au championnat du monde à Budapest, mais il a fait que le 4x400. Sinon, il était au championnat d'Europe l'année dernière, deuxième du 4x100. Ah, il fait surtout le relais, en fait. Depuis 2018, il a fait que des relais. Et c'est son frère qui court sur les épreuves solo. Sinon, il avait fait championnat d'Europe par équipe à Lille, deuxième, 200 mètres en 20,57. Oui, bon, le gars, quand même, il te rattrape, quoi.
Faut le faire slalomer. Il court vite tout droit. Est-ce qu'il est capable de faire des virages ?
Ah, dans les relais, je suis passé dans le virage ou pas.
C'est ça.
Alors, ensuite, la deuxième petite news, ça parle de foot. Et il y a un sportif bien connu qui a racheté un
Karim
club.
Karim Benzema ? Non, je
rigole. Oula, je veux pas de problème avec cet enculé de Darmanin. Pardon.
Oula.
Oh,
ça y est.
Oh là là, j'ai dérapé. J'espère que je vais pas me faire mettre en garde à vue parce que j'ai insulté Darmanin. Oh là là, on sait jamais en France en ce moment. Bon, sur ce petit volet politique. Alors, quel sportif a racheté le club de National 2 de Bourges.
Et c'est un footballeur ?
Oui.
C'est un autre footballeur qui a racheté ça.
C'est un footballeur.
Un ancien footballeur
d'équipe
de France.
Est-ce que c'est un footballeur qui a joué ?
Non.
Ouais. Non. Bon, je vais être nul alors. Je te laisse à Maurice.
C'est un Français au moins ?
Non.
Ah, c'est un étranger.
C'est un étranger.
Ah, c'est le club de Bourges.
Et du coup, il a joué en équipe nationale de son pays ?
Oui.
Okay.
Est-ce que c'est un basketteur ?
Non,
mais non, elle a dit c'est un footballeur.
Je m'écoute pas.
Oh là là, elle est deux là.
C'est karma.
Bon, ça me fait plus penser au basket qu'au foot, mais bon.
Non, mais ils sont en national, hein, deux.
Alors,
national
quel
deux.
Pays ?
Un footballeur étranger.
Est-ce que c'est une grande nation du foot ?
On peut dire que c'est leur sport principal, je pense, dans ce pays.
Oui, mais bon, est-ce que vraiment c'est...
Non, c'est pas une...
Est-ce que c'est une équipe qui finit en quart et demi dans une compétition mondiale?
Pas récemment.
Est-ce que c'est un sportif qui joue encore ou non, il est à la retraite?
Non, il joue encore. Hein.
Ah, il joue encore.
Il joue encore, il me semble.
Est-ce que c'est une nation européenne?
Non. Ah. Quelle bonne question.
Est-ce
de
que
Cécile
c'est
Vertigo.
Une nation d'Afrique du Nord?
Ça doit être Amérique du Sud, du coup, non?
C'est pas Afrique du Nord. C'est pas
Afrique
Amérique du
tout
Sud.
Court
c'est en Afrique, oui.
Ah, putain. Cameroun?
Non.
Sénégal?
Ouais.
Il joue encore au Sénégal?
Non, il joue pas au Sénégal.
Enfin, non, je veux dire, il joue encore pour la sélection.
Est-ce qu'il joue encore pour la sélection? Je sais qu'il est encore actif en club. Mais est-ce qu'il est encore actif? Pardon?
Sadio Mané?
C'est lui, ouais. Ah. Donc, passage par Bayern, Liverpool. Et là, il joue en Arabie Saoudite, chez Al Nasser. Donc, il se met yam, quoi, il profite. Oui. Et du coup, avec ses gros chécos, il arrache des bourses.
Il a rien d'autre à foutre.
Très bon investissement. Très bon investissement.
Non, alors en fait. Bon, l'article commence. Alerte, ceci n'est pas un exercice. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. L'international sénégalais et joueur de renom Sadio Mané va racheter le club de Bourges en National 2, a appris le club français ce mercredi. L'attaquant d'Al Nasser a un projet en tête pour cette équipe dont il connaît les dirigeants. Voilà 3 ans que Mané discute avec le président du club, qui s'appelle Cheikh Sylla, a expliqué le maire de Bourges, Yann Gallu. Alors, Sadio Mané s'engage à Bourges à travers le Bourges Foot 18. Pour porter un projet de professionnalisation du club local. En gros, leur intention, c'est de les faire monter dans les prochaines années en Ligue 2. Là, ils sont National 2, je ne suis pas sûr, tous les National 2, National 1, Ligue 2, il me semble.
Oui,
c'est ça. Donc, il faut qu'ils montent deux divisions. Et c'est ça, en fait, le projet pour les prochaines années. Et il y a déjà des joueurs qui vont arriver, des joueurs qui terminent un peu leur carrière professionnelle, on va dire. Qui arrive, qu'on joue en Ligue 1 par exemple, j'avais les noms. L'arrivée de l'international sénégalais Moussa Konaté, passé notamment par Amiens ou Dijon. Voilà, donc ils vont se renforcer et puis leur objectif sur les années à venir, c'est de monter en Ligue 2.
Belle ambition.
Hein. On gardera un œil sur ce petit club prometteur.
ce petit Mané aussi, on va voir ce qu'il fait.
Ah oui, ce petit Sadio Mané. Hein. On va voir ce qu'il fait dans le foot.
Bah, ça, c'est vrai que. On n'entend pas trop parler, mais il va peut-être percer un jour.
Alors, ensuite, on va partir sur du tennis.
Ah.
Oh.
Sur un certain Paul Mans, qui a été disqualifié du Master 1000 de Shanghai. Mais pourquoi a-t-il été disqualifié du Master 1000 de Shanghai, ce bon Paul Mans?
Il a triché?
Non, il n'a pas triché.
Il a fait un truc qui est contre la République de Chine ou un truc politiquement incorrect pour eux?
Non,
culturellement incorrect pour les Chinois.
Non, on ne parle pas de politique dans ce podcast.
À part Darmanin de temps en temps. Mais
vers vous, là.
Pourquoi il a pu être disqualifié?
C'est lié au pays. Non, ça n'a rien à voir avec le pays. Donc, c'est lié juste au sport. Un truc qu'il a fait par rapport au sport.
C'est lié au sport, oui. Ce n'est pas lié au pays.
C'est pendant un match qu'il a fait
quelque
chose?
C'est pendant un match, oui.
Est-ce qu'il aurait été disqualifié dans un autre pays?
Oui.
Oui, pareil. Donc,
oui,
c'est...
Oui. C'est vraiment lié au sport, pas au pays.
Okay. Mais au sport du tennis, quoi.
Oui. Okay. Le Master 1000 de Shanghai, c'est un tournoi de tennis.
On ne sait jamais.
C'est pas au golf. Non, mais comme j'ai aussi introduit la question en disant maintenant on va parler tennis, peut-être que tu n'écoutais pas ces six.
Non, j'ai écouté, mais je me suis dit que c'était pour nous induire en erreur.
Mais pourquoi je mentirais? Je ne mens pas dans ce jeu des questions. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Du coup, personne ne trouve les réponses.
Je ne te fais pas confiance.
Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dit ou quelque chose qu'il a fait?
C'est quelque chose qu'il a fait.
Il a cassé sa raquette, il a été violent.
Non.
Enfin... C'est par rapport à l'arbitre?
C'est par rapport à l'arbitre.
Il a envoyé quelque chose sur la chaise de l'arbitre ou envoyé une balle ou
Il a envoyé une balle.
En direction de l'arbitre?
Plus qu'en direction.
Sur l'arbitre?
Plus que sur l'arbitre.
Sur sa tronche?
Dans la tronche. Un bon coup droit dans la tronche de l'arbitre.
Mais exprès, quoi.
Ah, bah ça, on va lire l'article. Ne dit pas. Alors. Paul Mans dégoupille et envoie un coup droit dans le visage de l'arbitre qui le disqualifie. Tout proche de se qualifier pour le tableau principal des Master 1000 de Shanghai, l'Australien Mark Paul Mans s'est vu indiquer la sortie après avoir envoyé une balle dans le visage de l'arbitre. Arbitre n'est pas toujours un métier facile. Et pas qu'au football. Mardi, c'est au tennis qu'un officiel a dû regretter de se retrouver là. Après que l'Australien Mark Paul Mans, 140e joueur mondial, a découpillé et lui a expédié un coup puissant en plein dans le visage. Le joueur qui était proche de se qualifier pour le tableau principal des Master Mills de Shanghai et disputait sa première balle de match n'a pas digéré de rater une montée assez simple au filet et dans un réflexe hallucinant n'a rien trouvé de mieux que de à faire que de reprendre la balle violemment de volée en direction de l'arbitre de chaise. Ah.
Ça laisse penser qu'il ne l'a peut-être pas fait exprès.
Oui, mais
il
bon.
Il s'est énervé, c'est puis un peu con. C'est parti vers l'arbitre. Quoi. Mais c'est
oui,
con,
tu y penses, et juste après, tu fais pourquoi j'ai fait ce geste. J'aurais dû faire de l'autre sens. Un revers de colère, ça ne va pas sur l'arbitre de chaise.
Ouais, mais c'est comme quand tu tapes le doigt de pied sur la table, tu as envie de péter la table. Mais bon, on
repasse oui, bah, à la limite, tu ne te fais pas disqualifier.
C'est pas faux. Mais là, on va dire que c'est un réflexe pareil. Quoi.
Donc ah, voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait disqualifier.
Ah, c'est con. Bah, il est prêt de remonter 140e, il va s'arrêter là, du coup, s'il pète des boulons comme ça à chaque fois.
Il va falloir qu'il se calme, oui, c'est sûr. Alors ensuite, on va aller dans le monde
je t'écoute.
De la région de Cécile. Un ah. sport cher à ses terres.
Tour de France.
Un pelote basque.
Non.
Ça pourrait.
Le rugby.
Ah, ok.
C'est un peu dans les news en ce moment.
Oui, pas pour longtemps, mais...
Oui, pas pendant longtemps. Bah, après, bah... Bon, ça fait 4 mois que c'est dans les, oui, dans les news. La Coupe du Monde, elle dure pour... Elle dure tellement longtemps.
Ah, ça va en faire.
Alors, pourquoi le ballon de rugby est-il ovale ?
C'est une bonne question. C'est, bah, ça, la question.
C'est ça la question.
C'est pas une intro. C'est mieux pour envoyer en arrière.
Ah, il y a une partie de la réponse là-dedans.
Enfin, tu vois, c'est...
C'est pour faciliter les passes ?
Ouais.
Ou pour le faciliter le fait qu'on... Pour l'attraper ou pour que le ballon vole
Un peu
vole
de tout, c'est un peu ça en fait. Mais il y a un peu des légendes, mais vous ne les connaissez pas un peu les légendes autour de ça et... Vous savez d'où ça vient, le rugby ?
Non, même pas. C'est ton sport.
Hein. Ok. En fait, c'est non,
mais je... pas un mec qui joue au foot et qui a ramassé la balle et qui a voulu... C'était pas ça l'histoire ?
Il y a un truc comme ça, ouais.
Un mec qui joue au foot et qui, à un moment donné, a ramassé la balle et a... l'a pris sous son bras et a joué comme ça et puis c'est devenu le rugby.
Enfin... Il y a un truc comme ça, en gros. Bon, en fait, je pense que la question, elle est nulle. Pourquoi il est ovale ? Bah, pour mieux l'attraper ? Oui, au final, c'est ça, c'est la raison. En fait, la question éclatée au sol. Je m'en veux, là.
Ah, je suis déçu.
Je suis déçu de moi, là. Alors, en gros, parce qu'en fait, j'ai trouvé l'histoire, les légendes autour, elles sont un peu rigolotes. Et en fait, j'aurais dû la poser autrement, je pense. Alors, s'il est à présent ovale, à la naissance du rugby, le ballon était rond.
Oui.
La cause étant qu'à l'origine, il s'agissait d'un ballon de football. En 1823, lors d'une partie de foot, le ballon en question se serait dégonflé. Une histoire raconte que le jeune William Webb, Ellis, alors âgé de seulement 14 ans, l'aurait pris dans ses mains, comme tu disais, Cécile, avant d'aller l'aplatir dans le but adverse. Il l'aurait serré tellement fort contre lui que le ballon rond serait devenu ovale.
Oh,
oh quelle belle...
Et quelle belle moi, j'ai une petite anecdote pour sauver ta question.
Vas-y.
Enfin, je l'ai appris que maintenant, peut-être que vous le savez. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi... Ça s'appelle un essai.
Bah, tu l'as appris dans mon podcast.
Tu l'as dit dans ton podcast.
Question, on a posé la question dans la saison 1.
Ah, je ne sais pas si je l'écoutais. Non, je crois que je l'ai appris sur YouTube ou je ne sais pas quoi. Pendant la Coupe du Monde en France aussi, il y a eu un reportage dessus quand ils expliquaient les règles. Bon, bref, bon, bah, si tu l'as déjà dit dans ton podcast, cette question reste éclatée et on passe à la suivante. Ouais.
Non, mais attends, je ne me rappelle plus de la réponse. Il fallait essayer en gros d'aller marquer dans le truc adverse, il y a un truc comme ça.
Non, ce n'est pas ça tout à fait. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça.
Je me rappelle même plus de l'épisode.
Réponse, hein. En gros, l'essai, c'est quand tu as aplati le ballon derrière la ligne.
Ouais.
Et à l'époque, ça, quand tu faisais ça, ça ne marquait pas des points. Ça te donnait juste le droit d'essayer de tirer le ballon, de transformer, de tirer le ballon entre les poteaux.
C'est vrai,
donc
c'est
pour ça que ça s'appelle un essai. Bon, ben voilà. Il fallait une petite piqûre de rappel.
Merci beaucoup. Et allez écouter les autres épisodes pour avoir l'histoire en entière. Merci, Cécile. Tu pourrais recommander le podcast à la fin, si tu veux.
Je les recommande tous.
Ah, merci. Alors, pour ce qui est de la vraie histoire, la pratique du rugby provient en réalité du football qui n'avait pas encore été... les règles n'avaient pas encore été établies. Donc, on y jouait un peu comme on voulait, avec les pieds, parfois avec les mains. Et au moment où la pratique a été codifiée, il y a eu scission entre le football et le rugby, qu'on appelait à l'époque rugby-football. Bon, ils sont un peu fait chier. Ça s'appelait rugby-football. Ils ont dit, on sépare. Il y en a un, ce sera rugby, l'autre, ce sera football. Ça se trouve, ça aurait pu être l'inverse. Ça alors, bah, à ce
ça
moment...
aurait pas fait sens que le rugby oui, c'est vrai. Football quand même.
Bah, le football américain, ça veut bien football. Bah, après,
oui,
c'est
bah,
les Américains.
On sait pourquoi.
Oui. C'est alors à ce moment qu'est intervenu un cordonnier de la ville de Rugby, connu sous le nom de William Gilbert.
Ah,
Gilbert, donc on connaît bien
les ballons
de Gilbert. Ah. Ce dernier a eu l'idée d'adapter le ballon rond à la pratique de ce nouveau jeu, considérant qu'il était plus simple de l'attraper avec les mains. Il a choisi de faire une forme ovale. Et vous saviez les premiers ballons avec quoi c'était fait ?
Avec de l'intestin, non, ou des trucs comme ça. C'est pas de la, c'est de la truc de des parties de l'animal.
Ouais, mais c'est pas des intestins.
La peau, pas, la pas peau.
Non, c'est pas du cuir. Genre. Non, bah il y a du cuir autour de ça.
L'estomac ou je sais pas quoi, un truc.
Non, pas l'estomac. C'est aussi un réservoir. Oh, le
gros. La vessie.
Ah. C'était la vessie de porc. Et ils mettaient le cuir autour.
Autour, ouais, ouais.
Ah bah là, c'était vegan. À l'époque.
Ça va être cancel.
Alors, la vessie plus la peau. Alors là, oh là, c'est cuir. Fini le rugby pour toi. Donc voilà. Alors ensuite, je pense. Donc, je savais que ça allait être un peu court parce que j'en avais pas beaucoup des petites news insolites. Donc, j'ai fait un petit jeu que j'ai appelé moi-même le jeu des records.
Bah.
Oh bah, c'est très simple, je vais vous expliquer. Par exemple, si je vous dis 9 secondes 58.
Record du 100 mètres.
Voilà, exactement. Et donc, maintenant, on va commencer le jeu. Si je vous dis 154 mètres.
Ah. 154 mètres.
Et c'est des trucs. Là, on va pouvoir prendre un peu de temps, je pense. Parce qu'il y a des trucs. J'ai pris que des trucs à la con. Hein. Je vous.
Oui, d'accord.
Le 958, c'était l'exemple pour comment le jeu fonctionne. C'était pas.
Donc, c'est pas un sport vraiment très, très reconnu, le 154 mètres.
Ah, si. Là, c'est reconnu. C'est pas un truc qu'on voit au jeu, au JO, quoi.
C'est un lancer de quelque chose ?
Non, c'est pas un lancer.
C'est une distance parcourue.
C'est une distance parcourue.
Est-ce que c'est un sport que je kiffe, non ?
On pourrait dire ça, si. C'est vrai en plus. Eh, c'est un sport que tu kiffes.
C'est un sport lié à la plongée, l'eau, non ?
C'est lié à la plongée et à l'eau.
Ah oui, c'est l'apnée. La plongée, l'apnée, ouais.
C'est de l'apnée, mais...
À quelle discipline d'apnée ? Ah, c'est de l'apnée nos limites ?
Non, non, c'est pas... Bah non, mais si je vous dis ça, on trouve la réponse.
Ok.
Donc c'est une distance c'est
sans,
parcourue.
Sans assistance, enfin sans palme. Sans...
sans assistance, mais... En gros, c'est si je, apnée en fait, ça vous met dans une direction qui est pas forcément la bonne.
Ah, c'est une distance sous la glace, par exemple, un truc comme ça.
Ah.
Oui, mais peut-être. Pas sous la glace, en gros, ah, dans l'eau, mais dans juste en eau libre,
en horizontal. Ok, pas en profondeur.
Donc, okay. La Russe Marina Kazankova jouissait déjà d'une certaine notoriété en tant qu'apnéiste, psychologue sportive et actrice.
Bah,
ça va, elle en fait, ouais, pas mal. Hein. Mais elle était à la recherche d'un défi supplémentaire, oui, parce qu'elle était pas assez occupée apparemment.
Semble-t-il.
Bon, la carrière d'actrice ne devait pas décoller. Elle a 4 records du monde Guinness à son actif. En 2016, elle a battu le record de nage sous l'eau en eau libre avec une distance de 154 mètres. Okay. Et après, elle a d'autres records. En 2017, elle s'est lancée dans la plus longue marche sous-marine. Donc ça, celui-là, j'ai pas trop bien compris. En faisant un pas de 69,7 mètres depuis le fond d'une piscine de plongée à Dubaï. Donc, elle a fait la plus longue marche, mais elle a fait un pas de 69,7 mètres. Du genre, elle a sauté sous
nager,
l'eau,
elle
a reposé le pied, et 69 mètres. Oh, quel record incroyable.
Ça fait con, ça veut... Alors, c'est la seule à l'avoir tenté en même temps.
Oui, bah oui. Bon. Bah, moi, je vais tenter, bah, je vais
attends,
faire 70.
69 mètres, c'est énorme.
Oui, oui, c'est beaucoup. Hein. Bah, il n'y a que Dubaï, tu peux avoir une piscine comme ça, j'imagine.
Bah oui, déjà, il faut trouver la piscine.
Et elle détient également les records de la plus longue danse sous-marine.
Ouais, bon, d'accord.
3 minutes 28,60 secondes.
Elle a créé tous les records
et
possibles sous l'eau. Quoi.
Le plus long pont sous-marin, donc le pont en yoga, de 4 minutes et 27 secondes.
Ok.
Ah, c'est vrai.
Voilà. Le deuxième, si je vous dis 17,65 secondes.
17,65 secondes.
Secondes.
Est-ce que ça se fait dans un stade ?
Ça se fait dans un stade, ouais.
Ah. Okay. C'est une performance athlétique ?
C'est une performance athlétique.
Donc c'est en courant, c'est quelque chose en courant ?
C'est en courant.
17,65.
Est-ce que c'est un truc genre courir à l'envers, courir sur les mains, un truc dans...
C'est un truc dans le genre.
Et c'est sur une distance en particulier aussi ?
C'est sur une distance en particulier.
Sur quoi ? Sur 50 mètres ou sur 100 mètres ?
Sur 100 mètres.
100 mètres, est-ce que c'est courir à quatre pattes ou genre un truc d'un genre ?
Non, il y avait celui-là, mais je ne l'ai pas vu. Courir à quatre pattes, est-ce que je peux le trouver ?
Est-ce que c'est sur le record du...
Non, ce n'est pas lié à l'âge.
Non, je pense que c'est sur la façon de courir. Sur un pied ?
Non.
Les pieds joints ? Un truc dans, la, tu sais, dans les poubelles, là, dans le sac ?
Non,
là,
le potato bag, je ne sais pas quoi. Là. Non, ce n'est pas ça.
Putain.
C'est un record paralympique ?
Non.
Est-ce que c'est un record...
T'es un salaud, parce que je dis c'est que des trucs à la con, toi tu sors pas un record paralympique.
Bah,
ouais, tes propos n'engagent que toi.
Pas, je suis pas là pour juger après.
Non. Il en faut toujours un qui soit pas politiquement correct dans ce podcast. Bah, qui nous mette dans la sauce. Est-ce que c'est un truc vraiment genre ridicule avec genre avec courir avec une cuillère avec un œuf dans la cuillère ou des trucs comme ça, des trucs débiles? Ou c'est un truc à peu près sportif quand même?
Non, c'est un peu débile quand même. D'ailleurs, on a eu quelque chose de similaire sur le marathon dans un des podcasts. Là, ça vous donne un...
Avec des chaussures de ski.
Voilà, c'est ça.
Chaussures de ski.
C'est 100 mètres en chaussures de ski.
Ah, c'est quand même pas con.
D'accord.
Oui. D'ailleurs, le 100 mètres à quatre pattes, 15 secondes 86 centièmes.
Ah, non, plus okay. Rapide que celui avec les chaussures de ski.
Plus rapide. J'aimerais bien voir une course entre les deux. Alors, celui qui est à quatre pattes, c'est Katsumi Tamakoshi. Et avant, c'était détenu... cette discipline a été inventée en 2013 par le japonais Kenichi Ito, qui détenait l'ancien record en 16 secondes et 87 centièmes. Et là, l'autre, il lui a mis une seconde. Bah ouais, enfin, une seconde et un centième. 15 secondes et 86 centièmes. Il a dégommé. Il a explosé le record du monde du 100 mètres à quatre pattes. Et pour les 17 secondes 65, donc effectivement, Usain Bolt détient le record du 100 mètres en 9,58. Qu'en est-il pour le 100 mètres en chaussures de ski? On se posait tous la question. Heureusement que je suis là pour y répondre avec ce podcast.
C'est vrai.
Formidable.
C'est vrai.
Alors, pas moins compliqué, cela demande à allier rapidité et rigidité. Alors, c'est André Ortolf qui a relevé le défi en 17,65 secondes.
Il vient d'où celui-là?
Bon, André Ortolf, je dirais l'Est, sans donner un pays pour ne pas être raciste. Et tout s'est confondre. Allez. Maintenant, le prochain record. 16.
16 quoi?
16. Ouais, 16 quoi? C'est ce que tu dois trouver. C'est pas possible, ça.
Un nombre de fois qu'il a fait quelque chose.
C'est un nombre de fois que quelque chose a été
répétition.
Fait. C'est une répétition, effectivement.
Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas lié à... C'est un truc de jongle ou quelque chose comme ça?
Non. Cécile, je vois qu'elle est, elle est en train de son cerveau, il tourne et en même temps, elle ne peut rien faire d'autre. Genre, sa tête, elle tremble.
Quelqu'un qui a fait 16 fois.
De ma vie, 16 quoi, 16.
Parce que c'est con, du coup, toujours.
C'est oh, là, c'est,
là
con,
c'est impressionnant un peu quand même.
Ouais, c'est un peu impressionnant, mais bon, je ne m'entraînerai pas pour le faire.
16 fois.
C'est pas ce que j'utiliserais pour impressionner les gens.
Il a fait 16 fois le tour de quelque chose ou...
Non.
Est-ce que c'est lié à un sport qui est assez connu, assez, ou rien à voir?
C'est,
bon, vraiment...
c'est lié à un sport assez connu, mais on va dire que c'est.
C'est
pas une
loin,
discipline
quoi.
Qu'on vaut JO, truc comme ça, mais genre c'est connu parce qu'il y a plein de monde qui fait ce sport.
Donc il a besoin d'un accessoire pour,
Il a besoin d'un accessoire.
Genre une raquette ou un.
Non.
Un ballon?
Non.
Pas un sport que tu vois au JO. C'est quoi un sport que tu vois pas au JO?
Pour ça, il y en a un paquet.
Il y en a un paquet. Hein.
Ouais.
Bah, par exemple, le 100 mètres en chaussures de ski.
Bah, oui, voilà. Mais d'accord. Mais
le
100
mètres à 4 fois
de
d'ailleurs.
Mais bon, il y a du 100 mètres quand même.
La danse sous-marine. Ah
oui,
si, pardon, il
y
a la danse
d'accord.
Synchronisée.
Ouais,
c'est une répétition genre d'une
enfin,
distance
la nage
à parcourir ou d'une montagne ou d'un truc.
Non.
Il est statique quand il le fait?
Qu'est-ce que tu entends par statique?
Enfin, il bouge. Enfin, ce qui bouge, je veux dire, ce qui...
Bah, c'est 16
son
répétitions.
Corps bouge dans l'espace.
C'est 16
quoi.
Répétitions. Donc oui, son corps bouge dans l'espace.
Donc genre, c'est, ouais, là, c'est pas du jongle, t'as dit, de toute façon.
Non, c'est pas du jongle. Oui, parce que, bah, attends, si le record du monde, c'est 16 rebondissements de balles de tennis sur la raquette,
non, voilà.
Ah, bah, moi, je peux le faire, du coup.
Il aurait fallu trouver autre chose.
Est-ce que faire la chose qu'il a faite une seule fois, c'est dur?
Oui.
Déjà, une seule fois, c'est dur.
Ah, une seule fois, c'est très dur, même, je pense.
Du coup, 16 fois, c'est ouf, quoi.
16 fois, ouais, c'est pour ça que je dis c'est impressionnant, mais c'est pas le truc que.
Ça se fait en extérieur?
C'est pas trop. Peu importe.
Il pourrait le faire ici dans le salon.
Il pourrait le faire dans le salon avec le.
L'accessoire
dont il a besoin.
C'est genre un vélo ou c'est un. Qu'est-ce que c'est un accessoire? Faut trouver l'accessoire, j'imagine que ça va nous
aider. L'accessoire, ça peut aider. Mais sinon, vous pouvez.
Est-ce
aussi...
que c'est quelque chose qu'il porte, genre un vêtement ou des
non.
chaussures?
C'est pas quelque chose qui.
Un truc qui tient dans les mains ou aux pieds?
On va dire qu'il tient dans ses mains, oui.
J'adore ça parce que c'est. Il s'est fait des tractions ou un truc comme ça.
C'est des tractions.
Ah. Des tractions. Okay.
Mais bon, 16 tractions. 16
tractions,
bon, 16 tractions vous me direz. Bon, moi, j'arrive pas à faire 16
tractions. Je suis capable de faire, mais
16 tractions de un temps donné.
Non.
16 tractions à une main. 16 tractions avec les pieds.
Donc, tu es sur la bonne voie. C'est la manière dont il les a fait. 16
tractions à un doigt.
À un doigt.
Quoi?
Non, mais enfin. À un doigt par main, mais.
Quel doigt? Le petit?
Le petit doigt.
Mais comment tu fais pour même
avec l'auriculaire. 16 tractions. Alors attendez, je vais vous donner un peu de background parce qu'il aurait pu en faire
fort.
Beaucoup plus. Mais il s'est passé un truc qui
a
vraiment. Comment on dit
Il y a son doigt qui est.
attendez. Alors, Mebam Itomba Metel a réalisé son rêve, devenir l'homme qui fera le plus grand nombre de tractions avec les auriculaires. Et oui, drôle de rêve, mais après 14 ans d'entraînement, il a réussi à effectuer 16 tractions en un peu plus de 30 secondes. 14 ans d'entraînement.
Putain, quasiment une traction par an.
Faut maîtriser le geste. Alors, les rumeurs disent que Mebane déclarait pouvoir faire 30 tractions en une minute, mais que le jour de l'homologation de son record devant un représentant du Guinness Book, ce dernier se serait planté une écharde dans l'auriculaire gauche, l'empêchant d'aller jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Ah, la blessure qui tombe au mauvais moment. Après 14 ans,
ah, ça, c'est quand même
14,
con, ouais.
Cette écharde. Mais qu'est-ce qu'il allait, où il allait, où
en
il allait
vrai, il a quand même le record, donc bon. Hey, ouais,
qu'est-ce bon. Qu'il allait foutre bon, en gros, en vrai, je comprends pas pourquoi il a pas retenté. T'enlèves l'écharde, dans t'attends t'en deux pas. Semaines et tu te refais. Ça non, soigne.
Il attend 14 ans. Il peut le faire que 14 ans.
Ah, et là, ils vont faire beaucoup, du coup. Allez, le dernier. Ouais, on a du temps pour le dernier. Ça fera 45 minutes si vous trouvez.
Ça dépend de la vitesse à laquelle on
va. Ça dépend. Si je vous dis 101.
101.
Est-ce que c'est encore de l'apnée?
Non.
Dommage.
101 jours en apnée. 101 minutes, ça fait beaucoup. De quoi ?
C'est des jours ?
Non, c'est pas 101 jours.
C'est une répétition encore ?
C'est.
Est-ce que c'est un nombre de personnes ?
Non, c'est pas une répétition. Ah, on pourrait dire une répétition. C'est pas un nombre de personnes. On pourrait dire une répétition, mais on va dire c'est pas une répétition comme des tractions que tu fais genre les unes après les autres. C'est plus un nombre de fois en fait qu'une répétition.
Il a fait 101 fois quelque chose.
Mais... C'est ça.
Est-ce que faire la chose une seule fois, c'est déjà un truc de ouf ou il y a plein de gens qui le font ?
Franchement, c'est grave un truc de ouf.
Sérieux ?
C'est grave un truc de
j'ai
ouf.
J'ai l'impression que
c'est stylé du coup comme record.
C'est grave. Alors, le record, c'est pas si stylé, c'est un peu con. Quand j'ai dit tous les records, étaient un peu con.
Oui, mais bon.
Mais déjà, de le faire une fois, franchement, moi je dis, c'est vraiment impressionnant.
J'ai vu la tête qu'il fait, je sens que ça va être un truc.
C'est-à-dire qu'il l'a fait une fois.
Ouais, j'ai l'impression que.
Mourir sur la bonne piste.
Flo est trop fier de. Il a une petite tête de fierté là, oui. Du coup je me dis.
C'est-à-dire que Flo l'a fait une fois et donc du coup c'est déjà très impressionnant.
Ah bah c'est très impressionnant. Moi j'ai envie de dire toi aussi tu l'as fait.
C'est déjà fait une fois.
Un Ironman, un marathon. Un truc
c'est,
comme
un
ça.
C'est marathon.
Ah. Bah donc c'est pas un truc de ouf quoi. Il y a plein de gens qui font des marathons.
Bah tu l'as fait toi ?
Non mais il y en
a voilà,
plein.
Et bah voilà, désolé tu peux pas en parler. Désolé.
C'est ça le sens de ma question. C'est nous ici, ça
ici,
que je pensais.
Ici nous on en a fait des marathons. On sait que c'est impressionnant d'en faire. On sait que c'est difficile. Non, bah, on sait tout le travail qui va derrière madame. Nous on fait pas 4 semaines d'entraînement avant.
Nous on fait 14 ans d'entraînement.
14 ans d'entraînement avant un marathon. Je lui fais 3 entraînements madame.
Avec l'auriculaire.
J'ai 42 ans.
Le prochain, si
le prochain
56. Donc, du coup.
Bon, très bien. 101 marathons, donc voilà, c'est tout. Il a fait 101 marathons. Est-ce que c'est le même marathon ?
Non, c'est pas le même. Non, c'est pas ça, c'est pas.
Et 101 marathons, c'est où ? C'est pas
101 marathons, bah après, il faut trouver un peu plus de détails.
Ah, 101 marathons sous un certain temps ? Enfin, non. Plus rapide qu'un certain temps ?
Non.
101, il a fait tous les marathons. Bah, il y a plus que 101 marathons dans le monde.
101 marathons.
C'est lié à où est-ce qu'il les a fait les marathons ?
Non.
C'est lié à comment il les a fait ? Il court de manière spéciale.
Comment il les a fait ?
Ah. Oh putain, ces gens, ils sont relous de toujours vouloir faire des trucs spéciaux. Là.
C'est sur une période
C'est sur une période. Donc vous devez trouver la manière dont il l'a fait et sur quelle période.
Donc il a fait 101 marathons en un an ?
C'est ça.
Ah ok.
À l'envers.
Non.
101 marathons.
Oh, c'est aussi facile.
Sur des patins à roulettes ?
Non. Bah non, parce que
du coup, c'est nettement moins impressionnant.
C'est moins impressionnant.
Bah, de toute façon, je t'ai déjà pas impressionné. Si
ouais, oui, pour ça va, on a compris.
Quand même, sur un marathon.
J'ai hâte de te voir à ton premier marathon.
Sur un an, oui, mais sinon...
J'ai hâte de te voir à ton premier marathon, Cécile. Tiens.
Mais je vais pas faire de marathon.
Ah bah voilà. Ça abandonne déjà pour même d'avoir commencé. Oui, bah bravo.
Sans marathon.
Et comment il les a fait là, comment tu peux faire un marathon pieds nus ?
Voilà, exactement. Pieds nus, c'est ça.
Ouais, bon, c'est cool.
En un an. Sans marathon, oui, je sais pas pourquoi tu fais OK, 15 jours, je vais faire ça. À 55 ans.
Ah, okay.
Eddie Vega a couru 100 marathons en un an. Et oui, cela est déjà un bon score, mais ce n'est pas tout. Cet athlète a non seulement couru 100 marathons en un an, mais pieds nus. Son exploit a permis de récolter des fonds pour une association caritative qui offre des chaussures aux enfants défavorisés.
Il y a des fois de porter lui-même.
C'est ce que j'allais dire. Lui, il ne va pas se faire sponsoriser par une marque.
Alors, les 100 marathons.
Oui. Bah, on lui fait un tatouage au pire.
Alors, les 100 marathons ont été réalisés dans chacun des 50 États des États-Unis. Ah, oh putain, celui en Alaska, ça doit plus.
Ah oui, il a dit ça, oui.
Ouais, ça doit pas être rigolo. Alors, en réalité, Eddie Vega en a même couru 102 en un an. Mais le dernier était couru avec des chaussures.
Bouh. Aïe, 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 aïe.
Oh, oh, ça, c'est faible. Il est nul.
Comme l'autre avec son écharde, là.
Hop. Allez, hop, ça dégage.
La gueule des yep. Après ça, ça doit être horrible.
Allez, là, t'as, oui. des, pieds de hobbit, hein. T'as des pieds de hobbit, hein. T'as des pieds de hobbit.
La corne qui va avec le sabre.
Ah, là, clairement, ouais.
Dégueu.
Oui, bon, merci de donner des détails. On va passer sur l'effet marquant. Hein. Parce que j'ai pas envie que Cécile continue sur son... sur son délire, là. Donc voilà, c'était dernier des petits News Assolid. Je pense que je referai ça comme petit jeu quand je serai à court de News Assolid, parce que c'est assez facile.
Le jeu des records.
Le jeu des records. Alors, il va revenir. Faudrait faire un petit slogan. Pour quand il arrive, vous savez pas, et je mets un petit slogan du... un petit jingle. Alors, on va partir sur les faits marquants. On a plusieurs choses à dire. Alors, moi, déjà, je voulais commencer très égoïstement, parce que j'avais oublié de le dire la dernière fois, mais c'est une grosse annonce du côté de Reebok qui était sortie. Reebok est cher à mon cœur pour y avoir y passé quelques temps avant que ce soit vendu par Adidas.
Aux Américains, ouais.
Vendu aux Américains. Par les Allemands. Oh, oui,
ouais, voir ça.
Oh, alors là. Alors, alors Reebok va revenir dans le basket de performance. Ça a été annoncé. Avec un vice-président et un head of basketball assez connu.
Ça pourrait être un quiz d'ailleurs. Moi j'ai les deux. Mais...
Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas posé, parce que je savais que tu allais avoir les deux directs. Mais je pense que tu dois connaître au moins un des deux.
Ah ouais ?
Ouais, oui. C'est sûr.
Ils sont dans le milieu du basket ?
Oui,
plutôt.
Plutôt, ouais.
Je suis nul en basket.
Bah, il y en a un. Qui doit...
Il y en a un, tu dois pas mal le connaître, je pense, oui. quand même. Si je te dis le Big Diesel.
Le Big Diesel.
Non, c'est pas grave, c'était fait marquant, donc je vais les dire. C'est pas une... Alors en fait, Shaquille O'Neal devient le président de Basket Reebok. Et Allen Iverson devient le vice-président de Basket Reebok.
Ok.
Donc voilà, donc deux légendes du basket, hein, deux MVP, deux numéro 1 de draft. Allen Iverson numéro 1, deux numéro 1 de draft, deux MVP. Chaque 4 fois champion, Allen Iverson 0 fois champion, il y a toujours eu une équipe un peu de pipe à côté de lui, malheureusement le pauvre. Mais voilà, deux grandes légendes du basket qui ont toujours été en fait, sponsorisées par Reebok.
Ils ont deux contrats à vie. Okay.
C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais donc, en train de Iverson chercher dans ma tête des joueurs qui ne sont pas sponsorisés par Nike, et vu que je suis nulle dans le basket, j'étais là, je vais sortir un nom d'un mec qui est sponsorisé par Nike, non. Je vais prendre la sauce de tout le monde.
Mais non, parce que des gens, ils peuvent être sponsorisés, le contrat arrive à son terme, ils font autre chose.
Oui, mais c'est en possible, gros, mais bon, quand même.
Aussi là, c'est que Shaquille O'Neal fait partie du groupe d'investisseurs qui a racheté Reebok. Ah, okay. Donc, il fait partie des investisseurs de ABG, Authentic Brand Group, qui maintenant détient Reebok au niveau mondial. Donc, lui, il va prendre la direction des opérations basket.
Ah, mais Authentic Brand Group, c'est aussi eux qui viennent de racheter Quicksilver et tout, non ?
Ah ouais ?
Ouais, il me semble.
Je ne savais pas.
J'en sais rien.
Ouais, il me semble qu'ils ont Américains, racheté tous les
Board Rider. Enfin, les Canadiens. Jamie Salter,
Incorporation.
C'est lui qui fait partie des actionnaires de Lyon. Et on voit comment ça va, les Américains dans le foot. Ah bah bravo. Hein.
Bah, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils restent en basket, du coup.
Ah bah, dis ça aux Lyonnais, ils vont te dire oui.
Oui, pour le coup. Pour le coup, oui.
Donc voilà, c'était la petite news que j'avais oublié de partager la semaine dernière. Ensuite, on peut faire aussi un truc plus court sur le rugby. Mm-hmm. Parce
on en a déjà parlé.
Pierre a pleuré au micro de ce podcast. Ouais. C'était très, très attendrissant à voir. mais non, c'est la finale.
Ouais.
Puis la petite finale qui était déjà jouée hier aussi.
Oui, ouais. On s'en fout. Des Anglais, des Argentins, non merci.
C'est vrai.
C'est vrai que c'était...
Entre la peste et le choléra.
C'était un match horrible.
Oui, c'est ça.
Pour nous, c'était vrai que c'était un match horrible. Alors, j'ai pas regardé d'ailleurs.
Non, moi non plus. J'ai regardé les 10 dernières minutes parce que c'était intéressant quand même. Mais bon.
Pour savoir comment c'est. Ouais, les Anglais terminent 3e du coup.
Ouais, du coup, ouais, mais ils ont eu chaud.
Bah, au moins, ça fera un club, on va dire, européen sur le podium.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu tristoun. Ouais. Mais franchement, les Anglais... C'est vrai, Anglais-Argentine, c'était vraiment un sale match, quoi.
Ouais, au niveau des affinités, on va dire.
Il n'avait pas dû faire une grosse audience en France. Non.
Bah déjà, je peux te dire que les matchs, je pense que les autres matchs, ils font plus de grosse ambiance en France parce que j'ai des potes anglais, donc un soutien la Nouvelle-Zélande puisqu'il est à moitié néo-zélandais et sa copine est anglaise. Et du coup, le week-end dernier, ils ont réussi à avoir par Adidas donc les places pour la Nouvelle-Zélande
et pour la finale.
Pour la demi-finale la semaine dernière. Et au final, parce qu'on leur a dit, là en France, je pense qu'il y aura des places, parce qu'en France, tout le monde s'est désintéressé de la Coupe du Monde dans les bureaux. Ils vous auraient dit, là, France, tout le monde s'en foutait maintenant de la Coupe du Monde de rugby, depuis que les Français étaient out. Et puis, ils ont eu aussi des places pour l'autre demi-finale, au final. Okay. Donc, ils ont vu les deux matchs, coup sur coup au Stade de France. Et là, ils vont aller voir la finale, parce qu'ils ont aussi des places par Adidas pour la Nouvelle-Zélande.
Non, sérieux ?
Oui.
Alors qu'ils ont filé zéro place. Là,
t'aurais pu demander. Hein.
Bah, je savais pas.
Tu
moi.
Les aurais eu, hein, je pense.
Putain.
Ils ont filé zéro place à qui ?
Ben, moi, j'ai demandé au siège, là. Et,
au siège
ont filé... Enfin, dans l'équipe rugby, et on m'a dit que toutes les places, elles étaient parties pour Björn et les poteaux, quoi. Les poteaux d'en haut.
Non, mais il y avait catégorie 2 aussi disponible. Il y en avait pas mal. Hein. Il y avait 20 tickets ou trucs comme ça, je crois, sur
la
plateforme.
Sur notre plateforme employée. Mais pas sur la finale.
Si, la finale, ils y étaient. Hein. Moi, je les ai pas demandé parce que je m'en fous un petit peu. Mais...
Je crois pas, il y avait rien.
Ah, c'est moi, je te le dis, c'est okay. Comme ça qu'ils les ont eu, mes potes.
Okay.
Donc voilà, en gros, finale. Alors, Cécile.
Oui.
Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud ?
Bah, Nouvelle-Zélande.
Faut penser au bonus. Hein. Mais non, oui. Mais toi, tu y es allé, tu les as rencontrés. Toi, ils te connaissent. Ouais.
Non, mais en vrai, j'aime bien. J'ai aussi rencontré. J'ai joué au rugby avec Sia Colissi quand il est venu
au touch au rugby.
Au touch rugby, ouais.
Parce que c'est toujours rugby avec Sia Colissi.
Attends, deux secondes, je vais revenir là-dessus. Imagine si l'un de nous, on dit bon, nous, on a joué au touch rugby avec.
Avec Sia Colissi, on l'a bien
avec une femme et avec une athlète femme.
Ah oui, voilà, c'est.
Et là, on dit oh, j'ai bien touché. Bam, direct.
Terminé, le podcast, tu peux le fermer.
On connaît. Et ben, au moins, on entendrait parler du podcast, mais pour les mauvaises raisons. Mais là, Cécile vient de dire oh, j'ai bien touché Sia Colissi. Oh, bah bravo. Bravo, madame.
Te félicite pas. Hein.
J'assume.
C'était comment ? C'était un peu ferme, j'imagine.
Tu vas descriptif.
Partage un peu.
Franchement, t'es pas mal. J'aime. C'est la seule raison pour laquelle j'aime bien l'Afrique du Sud, c'est pour
c'est que tu as pu toucher si.
Pour qu'ils reviennent.
C'était pas mal, mais après, ouais, les autres.
Après, toi, t'as travaillé aussi assez proche des All Blacks.
Ouais. Ouais, non, et puis bon, bonus, quoi. Bonus oblige.
Faut vendre les maillots, quoi.
Ouais, et puis ma VIP est néo-zélandaise, donc bon.
Ah,
c'est
oui,
dans
c'est
les petits papiers aussi.
Néo-zélandaise maintenant.
En vrai, je dis ça, mais j'ai parié sur le match. J'ai mis l'Afrique du Sud gagnant.
Bah, c'était combien la cote ? C'était combien la cote ?
Non, mais j'ai pas parié des sous. J'ai parié dans notre notre BU. On a fait un petit une petite fantasy league. Et en soum soum, j'ai parié sur l'Afrique du Sud. Bah, j'ai envie de gagner quand même.
Ouais, ouais. C'est le tout pour le tout, quoi.
Bah, je me suis dit que tout le monde dans la BU a parié sur la Nouvelle-Zélande parce que Adidas oblige et parce que la VIP est néo-zélandaise. Du coup, je me suis dit. Si j'ai une chance de rafler la mise, c'est en pariant sur la
Fantasy League. Mais tu préfères quoi ? Gagner la Fantasy League ou être viré ?
Bah, du coup, elle a fait son choix.
Elle a fait son choix. La question est vite répondue.
Je pense que celui qui termine premier aura un maillot signé de tous les All Blacks et ça m'intéresse. Du coup, je me suis dit...
Ah ouais, bien
et
sûr.
Je suis, parce que je n'ai pas parié sur les premiers matchs, donc je suis bien au fond. Et j'ai aussi, je me suis mis trop tard. Je n'ai pas parié sur qui gagnait la Coupe du Monde. Donc,
ah, tu perds des points aussi. Hein.
Je suis mal placée. Ouais, je suis cinquième, je suis dans le top 5, mais je suis mal placée. Du coup, je me dis, si je fais un gros coup, si tout le monde n'a pas parié sur la Nouvelle-Zélande ce soir, que je suis la seule à avoir parié sur l'Afrique du Sud, peut-être que c'est là que je...
Ouais, parce qu'à mon avis, sur le vainqueur de la Coupe du Monde, il n'y a pas grand... peut-être pas grand monde qui a mis les All Blacks. Ils ont peut-être plus mis Irlande ou France au début. Bon, après, il y en a, c'est sûr qu'ils ont mis les All Blacks.
Mais je pense qu'à Adidas, il y en a qui ont mis les All Blacks. C'est pour ça que j'ai mis Afrique du Sud. On verra, mais...
Bon, toi, Maury, j'imagine Nouvelle-Zélande aussi.
Oui, je pense, hein, là, a priori.
Même au niveau du oui. Niveau de jeu.
Oui, a priori, ça semble quand même être meilleur.
Bah, franchement, le dernier match qu'ils ont fait, ils ont raté plein de pénalités de conversion. Hein. Franchement, s'ils font ça contre l'Afrique
Blacks,
du Sud,
ouais. L'Afrique du Sud
les Blacks,
aussi,
ils ont raté plein.
L'Afrique du Sud,
c'est pareil, niveau le botteur, c'est pas non plus un foudre de guerre. Donc,
Ouais, enfin bon, à chaque fois que ça se joue à un point, c'est quand même les Sudaf qui gagnent. Donc j'ai envie de te dire que.
Ah, c'est sûr.
Non, mais ça va être serré, je pense. Hein.
Eux, ils se démerdent toujours pour les points qu'ils ont dû mettre. Ils les ont mis et ils gagnent toujours.
Moi,
donc,
je dis Nouvelle-Zélande aussi. Hein.
Oui, a priori.
On verra. Donc voilà, c'était la petite aparté, rugby. Ensuite, j'avais un petit sujet pas très rigolo.
Oh.
Sur l'athlé.
Ah, ok. Quoi, du dopage ?
Non, pas dopage. Je pense que c'est moins rigolo encore que le dopage. C'est les frères Inger Brinkston. Je ne sais pas si vous avez vu la news.
Je sais pas si oui.
Ils ont en gros fait des déclarations sur comme quoi leur père était violent quand il les entraînait, quand ils étaient petits. Du coup, il y a une enquête qui a été ouverte sur leur père qui là entraîne un autre athlète norvégien. Du coup, il y a des tensions au sein de la fédération et entre cet athlète et les frères Inger Brinkston. Et en vrai. C'est vrai qu'on les voit en fait à la télé, Par exemple, surtout Jakob, on voit tout ce qu'il fait, plusieurs fois champion du monde, des records d'Europe, des records du monde, en salle, en extérieur et tout. Et au final, tu te dis, ouais, il a commencé super petit et tout, mais tu ne te rends pas compte, je pense, de l'intensité ou même le traumatisme qu'il y a derrière. D'être entraîné par toi. Parce que d'être entraîné par ton père comme ça, en gros, tu vas te plaindre à qui?
Non, mais après, peut-être qu'il y a des parents qui sont un peu mieux que d'autres quand même. Hein.
Ouais, mais je ne sais pas si pour arriver à ce genre de résultat et être aussi fort aussi rapidement, tu es obligé d'être un père ou un parent très borderline, même plus que borderline, s'il s'avère qu'il a été violent. Oui. Et si tu ne fais pas, ou si tu as une autre méthode, est-ce que tu peux arriver au même résultat?
Je ne sais pas.
Regarde, Cécile, tu as des enfants. Est-ce que tu les tapes pour qu'ils deviennent des champions du monde? Ou tu es gentille et puis ils deviennent des zadistes?
C'est l'un ou l'autre.
C'est l'un ou l'autre, t'as pas le choix. Ils peuvent pas être champions du monde de la zad. Hein.
Vu comme ça, du coup.
Oh, bah ça va y aller à l'appel. Une droite aller-retour.
On va courir.
Je refuse de répondre à cette question.
Non, mais je voulais parler de cette news, parce que enfin, je l'ai vu aujourd'hui aussi, c'est assez récent, et je trouve que c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu vois tous ces athlètes qui ont des histoires un peu de famille comme ça, quand tu sais qu'ils sont qu'avec leur famille, entraînés que par leur famille et tout, il ne faut pas oublier que parfois, il peut se cacher des trucs un peu sombres derrière. Quoi.
Ouais, c'est sûr qu'il y en a plein des cas comme ça, mais ouais. Non, j'avais vu qu'ils avaient parlé de leur père, mais je pense que je n'avais pas vu qu'ils étaient pleins de violence, ou des trucs comme ça, mais bon, c'est sûr que... Ouais. C'est les limites du haut niveau.
Enfin, ça, plus les doubles très chaudes à l'entraînement, ça fait mal. Voilà, c'est la méthode norvégienne. Oui. On disait pas tout sur la méthode norvégienne, apparemment. Bon, je me demande qui tape le triathlète.
Blumenfeld,
je me demande qui le tape, lui, parce que le... même s'il n'est pas si grand que ça, j'aimerais pas taper contre Blumenfeld.
Ouais, faut pas chercher trop.
Non, donc voilà. Si vous voyez des belles perfs à la télé, avec des histoires, parfois il faut se méfier, on ne sait pas ce qui se passe derrière les histoires en privé aussi.
Bah, souvent, quand c'est comme ça, quand c'est effectivement le père qui a entraîné les gamins, souvent c'est rarement.
Surtout quand tu penses à leur âge, Jakob il a quoi, 23-24 ans.
Ouais, c'est cela, ouais.
Du coup, c'était fin des années 90, début années 2000, on n'était pas autant sur les sujets d'éducation, de bienveillance qu'on est aujourd'hui. Donc tu peux t'imaginer qu'à l'époque, ça devait y aller. Donc voilà, c'était un truc pas très rigolo, mais je voulais mettre ça aussi en avant. Et ensuite, un sujet beaucoup plus cool et très important.
Le Tour de France ?
Pas encore.
Ça, c'est pas très cool, ça.
Pas encore. Le basket.
Ah oui, ça c'est cool par contre.
Alors Cécile, je t'écoute.
Le basket. Je crois qu'il y a Wembanyama qui a fait son premier match.
Oui, il a même fait son deuxième aussi.
Ah, ok.
Non,
ils ont perdu le premier en tout cas.
Oui, oui,
mais ils ont gagné.
Ils ont perdu contre un grand Luka Doncic aussi, apparemment.
Oui.
Donc c'est un peu dur de gagner quand Luka Doncic est on fire. Mais non, en général, je voulais parler que la saison de NBA a commencé le 24 octobre dernier, dans la nuit du 24 au 25. Donc voilà, on repart sur une saison. Pour l'instant, Boston est toujours invaincu. Oui. 2 victoires, 0 défaites. Voilà. Est-ce que Philly...
un match, une défaite pour le moment.
Ah là là. Oh, la sale saison.
Ouais, avec James Harden qui a été refusé à l'entrée
dans l'avion.
Ah ouais,
oui, j'avais mis ça aussi dans notes.
Ils sont fâchés avec l'équipe, du coup il veut partir. Ah. Mais il est quand même obligé de se pointer aux entraînements, sinon il n'est pas payé. Et là, il a fait pendant 10 jours, il est parti, il ne savait pas où il était. Et puis, il s'est repointé au dernier entraînement avant qu'il parte en déplacement. Et là, ils lui ont dit, du coup, tu es hors de forme. Donc, tu vas rester à Philadelphie, tu vas t'entraîner pendant que nous, on fait le déplacement. Et il a cru que c'était une suggestion. Du coup, il s'est quand même pointé à l'aéroport pour voyager avec l'équipe. Et ils lui ont dit, non, tu restes à Philadelphie.
Du coup, il a été laissé au pied de l'avion.
Du coup, ouais, la sécurité l'a embarqué.
Tu as touché déjà un peu du sujet à Wemby, qui fait des bons débuts.
Oui, premier match un peu difficile, un peu gêné par les fautes.
Oui, mais bon. Après, c'est l'intensité de la saison régulière là, qui arrive. Bon, il va vite s'ajuster. On a vu qu'il s'adaptait rapidement, c'est ça qui est bien.
Oui. Puis il y en a deux, trois qui ont déjà essayé de lui grimper dessus, mais il les a tous bloqués.
Il est trop grand. Ah,
oui. Bah, non, ça va être le challenge de tout le monde. Tout le monde va essayer.
Bah, oui, là, c'est sûr qu'il a une grosse cible dans le dos. Ouais, là. C'est genre le poster sur Victor Wembanyama.
Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui y arrive, mais bon, pour le moment, à chaque fois, il les
bâche. Ce qui est drôle, c'est que qui va essayer de faire ça, et les mecs, ils vont flex de ouf. Wembanyama, il a 19 ans. Et ils sont là. Ouais, j'étais qu'ils sont un mec de 19 ans. Moi, j'en ai 26. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Waouh.
Ah, clairement, ça va être ça. Mais non, ouais, clairement, ça commence bien. Et puis ça joue bien, hein, les Spurs, pour le coup, avec lui. Ils ont tenté une équipe un peu particulière, mais non, c'est beau. Donc, beau début de saison pour le moment.
Hâte de voir ce qu'ils font aussi l'année prochaine, parce que les Spurs, il me semble que s'ils ont un bon premier, ils pourraient avoir un bon premier tour de draft si jamais ils font pas une bonne saison. Leur tour leur appartient. Donc, leur premier pick, ils l'ont pas trade. Donc, ça pourrait être intéressant de voir dans deux ans.
Comment après, ils ont même une chance, si ça tourne, de finir aux portes du play-in ou quelque chose comme ça, hein, cette année. Donc ils peuvent même accracher peut-être les play-offs.
Mais est-ce qu'ils vont vouloir aller en play-off et ensuite avoir du mal à reconstruire ou se dire
ça va être.
Parce que c'est plus facile de choper un bon rookie. Surtout que oui. Wembanyama, bon, tu chopes un 2 ou un 1 ou un 3 plutôt que de surcharger tes points de garde ou tes...
Non, c'est sûr, je pense qu'ils vont voir ça. Ils font ce qu'ils vont tester sur le début de saison, voir comment ça tourne. Et effectivement, s'il pouvait y avoir plus de défaites que de victoires, ça ne les dérangerait pas trop. Ouais.
Voilà. Bon, sur ce, juste dernier point basket, Cécile. Après, je te promets, on passe sur le vélo, on passe sur le cyclisme. C'est l'ASVEL en Euroleague qui a fait des sacrés débuts, qui se fait démonter la tête.
Ils s'en fait démonter pour le moment, ouais.
Et du coup, le frère de notre héros national du basket qui s'appelle...
Aucune idée.
Si tu le connais.
Quand même, un basket français. Il y en a qu'un.
Un basketteur français. Il y en a deux, tu connais Victor Wembanyama.
Oui.
Puis les Pietrus.
Ah, non.
Ah, tu les connais parce que. Non, mais. Non, 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 on n'a pas d'idée.
Ils sont chez moi.
Le meilleur basketteur français de tous les temps. Il y en a qu'un, de toute façon.
Le meilleur basketteur français de tous les temps. Je ne sais pas.
Si, c'est sûr que tu le connais.
Tony Parker.
Oui, voilà. Ah, on aurait dû dire Desperate Housewives.
J'aurais pu en dire. Je suis un peu de l'ancienne génération des joueurs de basket.
Bah, Tony Parker, c'est même génération que Pietrus.
C'est avec les Pietrus, oui.
Je vous ai déjà raconté que j'ai fait la fête avec Michael Pietrus.
Ah, hein, quoi? Non, vas-y, raconte.
Enfin, qu'il est venu manger chez moi.
Hein? Il est venu manger chez toi?
Surtout que c'est un phénomène, lui, en plus.
À l'époque, j'étais en stage chez Billabong, sur la côte landaise. Et il y a un... Je sais pas comment ça s'appelle, un centre de rééducation là-bas pour les sportifs à Cap-Breton.
Ben, centre de rééducation.
Oui, mais il a un nom
pour les sportifs.
Parce que il est assez connu et tout. Et il se trouve que j'étais en plein hiver et tout, c'était vraiment la basse saison. Donc il y a un bar ouvert à Cap-Breton, celui à côté de la gare. Et il se trouve que.
J'adore la précision, celui à côté de la gare. Ceux qui connaissent les locaux, on représente.
Et du coup, Michael Pietrus s'était blessé. Du coup, il était en rééducation.
Ah il faisait une bonne rééducation apparemment au bar.
Au bar de Cap-Breton, ça y allait. Levé de coude.
Il était en rééducation au centre de Cap-Breton et il se trouve qu'il se pointe dans le bar où on était tous et tout et qu'il commence à prendre des sauts de mojito et on a commencé à picoler. Mais c'était un peu en after work, quoi. Et du coup, j'avais des potes qui étaient kinés là-bas et qui étaient allés chercher des champignons. Enfin, tu sais, nous, dans le sud-ouest, on est un peu nature. Et du coup, le plan était de se faire une omelette aux champignons. Après le bar, et j'avais à l'époque, je louais un petit appart et tout, et du coup, on l'a invité à venir. Il était avec un gars qui était avec lui en rééducation, pas connu, hein, mais du coup, ils étaient sortis ensemble.
Ouais, mais là, tu dis pas connu, mais ça se trouve, tu vas sortir un nom, ça va être une
grosse dinguerie. Non, franchement, je me souviens même pas, mais c'était pas un
pas connu, comment il s'appelle
au niveau, c'était juste un.
Un gars, il avait la balle. un Mike chez la balle.
Et du coup, il est venu chez moi avec ce gars avec qui il était sorti, qui était aussi au centre de rééducation, et des potes à moi, et on a mangé une omelette aux champignons dans l'appart que je jouais à l'époque. Quoi. Voilà.
Eh ben, merci pour cette histoire, elle est vraiment cool. Putain, moi aussi, j'aurais bien mangé
une omelette avec,
avec Mike Pietrus.
Tout qui doit être rigolo, parce que c'était un sacré prix Nobel.
Bah, lui, son frère, il devait être Mike un peu plus la fête, j'imagine, que Florent. Mais...
Moi, c'était plus sérieux.
Ouais. Oui, c'est un Florent, hein, sérieux, droit dans ses bottes. On l'appelle Air France. Il s'appelait Air France.
Air France,
la petite anecdote.
Ah, mais franchement, sympa.
Et champion NBA, accessoirement.
Champion NBA, c'est ouf quand même. Ouais, on en oublie des Français champions NBA. Rodrigue Bobois, je me suis rappelé il n'y a pas longtemps. Rodrigue Bobois, champion NBA avec Dallas.
Bon, mais c'était qui alors le type? C'était pas les Pietrus? Ah non, Tony Parker.
Tony Parker, tu l'as dit déjà.
Qui avait raison, frère.
TJ Parker.
Son frère était coach de l'ASVEL. Enfin, était entraîneur de l'ASVEL, du coup. Et depuis, ça fait longtemps, ça fait 3 ans. Et là, c'est vrai que ça fait quand même la fin de saison dernière et le début de saison catastrophique. On perd tous les matchs.
Surtout en Euroleague. Ça fait 18 d'affilée. Oui, 17 défaites d'affilée.
Et puis même en championnat, cette année, ils ont déjà laissé partir deux. Ils ont pris une branlée contre Monaco en début de saison. Donc du coup, ouais, il l'a enfin viré.
L'année dernière, ils sont derniers d'Euroleague, mais après, ils gagnent le championnat. Enfin,
L'année dernière, ils perdent en demi-finale contre l'équipe de Wemby.
Il se fait un peu, oui.
Mais bon, c'est vrai que ça faisait quelques
années avant. Il a des titres.
Surtout, c'est que tous les jeunes joueurs, parce que Wembanyama était à l'ASVEL avant de partir à Boulogne. Et il est parti parce que ça ne se passait pas bien avec TJ Parker. On avait Rizaché. Le fils Rizaché qui est aussi un numéro un des top.
Mais là, il est parti dans un autre club.
Qui est parti à Bourg-en-Bresse du coup parce que ça allait pas avec TJ Parker. Donc du coup tous les jeunes pousses françaises qu'on aimerait bien voir évoluer.
Ça marche pas quoi. Le problème parce que j'écoutais le podcast Basket Time d'RMC, ils ont parlé de ça. C'est ma recommandation. Allez hop, allez déjà. En gros. Un club comme l'ASVEL, tu veux jouer en Euroleague, c'est genre la Champions League du basket.
Ça va, je suis pas aussi éclaté quand même.
mais t'es pas là.
À Pau, ils sont pas en tout cas.
T'es pas la seule auditrice du podcast.
Okay, mais tu m'as regardé quand t'as dit
oui,
ça.
Oui, c'est vrai. J'avoue qu'il y avait un peu d'attention. J'avoue, il y avait un peu du sous-texte. T'as bien lu entre les lignes. Donc en gros, c'est dur de développer des jeunes joueurs à ce niveau-là.
Oui.
Du coup, c'est pour ça qu'ils font le choix de partir dans des plus petits clubs où ils auront plus de temps de jeu. Parce que du coup, tu as forcément des gros noms dans ces clubs qui, eux, c'est normal et légitime qu'ils aient le plus la balle. Du coup, tu n'es pas la première option en tant que jeune et tu as envie de partir.
Non, mais en théorie, la théorie, c'est de les emmener sur ce qu'ils signent toujours pour 2 ans et c'est de leur faire une première année où ils jouent quasiment pas en Euroleague, ils jouent qu'en Pro A. Là, ils prennent du temps de jeu parce qu'on croit, pour le coup, l'ASVEL, ils ont besoin d'avoir des effectifs assez larges parce que quand tu joues tout l'Euroleague, si tu joues la Pro A, tu joues tous les 3 jours quasiment. Du coup, l'idée, c'est de les faire jouer la première année quasiment qu'en Pro A et de prendre du temps de jeu. Et la deuxième année, avant qu'ils arrivent à la NBA, qu'ils prennent du temps de jeu NBA en Euroleague. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, ils ne font jamais la deuxième année, donc ils ne jouent jamais en Euroleague.
Ouais.
Mais bon, c'est un peu la théorie, sauf que ça se fout sur la gueule parce que finalement, ils ne jouent pas tant que ça en Pro A.
D'accord.
Et qu'ils ne se développent pas. Enfin bon, bref, du coup, maintenant, TJ Parker n'est plus là et que c'est le sélectionneur de l'Italie qui vient d'être.
J'ai vu ça.
D'être nommé. Donc, on va voir ce que ça donne.
Bah, nous, on verra de nos yeux.
Oui, à Munich.
À Munich en janvier.
Ah, ouais.
Cool. D'ailleurs, il faudra essayer de choper des petits maillots de l'ASVEL.
Oh, ça doit pouvoir se faire.
Bon, on verra.
J'ai lancé une écharpe avec
les collègues en France, parce que c'est Adidas le sponsor de l'ASVEL maintenant. Ouais. Donc, on verra avec
C'est Adidas ou c'est Peak ? Non, je crois que c'est Peak maintenant.
Non, mais ils ont changé.
Ils ont changé.
Ensemble.
Je sais plus.
Avant, c'était Peak, maintenant c'est Adidas.
Ouais, c'est peut-être possible.
Bon, on vérifiera. Et si c'est Adidas, on chopera des maillots. C'est pas Adidas, la flemme.
Et on verra peut-être Tony Parker.
Adidas, c'est sponsor Portes.
Ah ouais ?
Ouais, il me semble. En tout cas, ça l'était il y a
quelques
années.
Eh ben, on s'en
années.
Fout parce qu'il joue plus rien.
Ça nous fait une belle jambe.
Ah bah, franchement, je suis content d'apprendre ça.
Alors,
on part sur le cyclisme.
Tour de France.
Tour de France.
Donc là, c'est Pau, ouais.
Allez, on continue sur Pau. Quelle transition, Cécile. Mais c'est ouf.
Et en parlant de Pau.
Parce que Pau va être encore une fois de plus au programme
du Tour de France,
du parcours qui a été dévoilé il y a quelques jours. Pour l'édition 2024, donc on savait déjà que ça partait d'Italie et que ça arrivait à Nice, du fait des Jeux Olympiques. Ouais. Ça n'arrivera pas à Paris pour la deuxième fois de l'histoire, il me semble. Il me semble que la première fois, c'était pendant la guerre.
Ouais, je crois que tu l'avais fait, on en avait parlé dans un podcast.
On en avait parlé parce que c'était au moment des faits marquants, ils avaient donné le départ et l'arrivée. Et du coup, bon... On a eu le parcours. Alors, vos premières impressions sur ce parcours ? On va commencer par Cécile, la locale de l'étape.
Non, mais moi, je suis contente. Pau est encore sur le parcours. Donc, c'est bien. Je prévois mes vacances en fonction. En plus, ville d'arrivée et ville de départ. Donc, je sens qu'ils vont passer pas mal de temps dans le coin. Avec une belle étape au départ de Pau que je connais bien. Donc, je pense que ça va être stylé. Tourmalet, Ourcade dans 6 ans, arrivée Saint-Lary-Soulan, il me semble. Et en plus, il me semble aussi que c'est autour du... Je pense que l'étape au départ de Pau, c'est le 13 juillet. Et après, c'est autour du 14. Donc, c'est un bon programme de vacances qui s'annonce pour moi.
Non,
je suis
contente. C'est ça, le 13 juillet. Ouais. Départ de Pau, le 12 juillet, arrivé à Pau.
J'ai déjà fait mes petits programmes, là. C'est bon.
Bah après, est-ce que même pour l'étape du 14 juillet, du coup, ils ne sont pas si loin que ça
Non, ils ne sont pas loin, du coup. Il y a moyen de faire
Tu peux y aller. Hein, ça va être aussi. Deux étapes pyrénéennes.
Ils font quoi déjà, l'étape du 14 ?
L'étape du 14 juillet, ils font de Loudenvielle au plateau de Belle.
Ah, c'est la grosse, c'est celle qui fait 4800 mètres de dénivelé.
Avec 200 bornes.
Oui, celle-là, elle est
200 bornes, 4800 mètres de dénivelé.
Je pense que ça va gueuler dans le peloton.
Je pense que celle-là, elle va être
un truc de fou.
Ouais, mais c'est juste avant le jour de repos.
Ouais. Oui, bah, enfin, ouais, bon. Par contre, c'est en fin de deuxième semaine.
Ouais, alors celle-là, elle va faire mal.
Les deux dernières vont faire, les deux dernières de la deuxième semaine vont faire. Ouais, je pense que ça va être un beau programme pour les Pyrénées.
Ils font le Galibier, le Tourmalet en termes de col mythique. Donc le Tourmalet, pas.
Ils font quoi l'étape avant, enfin avec l'arrivée à Pau, celle qui est avant.
C'est qu'ils font Agen-Pau. Oh, donc là, ça va être. Ça va être une étape plate, j'imagine. Ouais. Là.
Agen-Pau. Ils passent où?
J'ai pas les détails de où ils passent.
Par Agen et par Pau.
Ils partent d'Agen, ils arrivent à Pau. Et puis, et bon, entre les deux, ils font du vélo.
Ils passent par la route.
Ils passent par la route. Ils prennent la départementale. Et non, départ d'Italie, avec, ça va attaquer assez rapidement les Alpes aussi, du coup. Ouais. Parce que bah, ça commence à Florence. Ça va direct dans le nord.
En Italie, ils font des étapes sympas aussi, parce qu'ils arrivent, ils prennent les... vers Bologne, ils font une espèce d'arrivée un peu en côte. Je ne sais pas si c'est Bologne ou Rouge.
Oui, il y a Bologne, c'est ça.
Et voilà, c'est ça. Donc là, du coup, ils arrivent... ils font une petite côte.
Il y a trois étapes en Italie.
Y a qu'une, en gros, sur les trois étapes, il n'y en a qu'une qui va se jouer au sprint en Italie. Je crois que c'est la première.
Florence Rimini.
Ou la deuxième, ouais, peut-être. Non, Rimini, je crois qu'il y a une petite bosse avant Rimini. Du coup, ça va être la deuxième. Où ils ont,
La deuxième, c'est. Du coup, c'est. Cessenatico, Bologne. Et ensuite, il y a Plaisance-Turin. Plaisance-Turin.
Amaury, il n'a pas
bossé. Voilà. C'est l'arrivée à Turin.
Oui, c'est celle qui a l'air le moins dans les montagnes.
C'est l'arrivée à Turin où ils sont plats. Et après, ils traversent les Alpes. Ouais.
Donc ça va aller assez vite. Le plus proche de Paris qu'ils vont faire, c'est Troyes.
Ouais.
Où ils font un contre-la-montre.
Ah, Troyes, c'est la, c'est justement l'étape, les Traversa des Bianchi. Donc ils font 3-3.
Ah, ils font 3-3, 200 bornes. Ouais.
Et ils passent par l'espèce de.
En fin de première
de vignes,
semaine.
Entre les vignes, dans les chemins.
9e étape. Ah bah, bon, ça va.
En tout cas, je vous invite à du côté de Pau autour du 14 juillet, les gars.
L'été va être déjà chargé avec les Jeux Olympiques.
Faut faire des choix là.
Faut faire du home office. Hein.
Bah oui.
Home office depuis Pau, home office depuis Paris.
Plus l'Euro 2024.
Ah, mais ça, c'est en Allemagne.
Oui, oui, c'est facile. Si c'était à Pau pendant l'Euro, du coup.
Ah oui, non, bah non,
parce que 2024, c'est
ah oui, parce que la finale de l'Euro, c'est le 14 juillet. Hein.
Ils n'ont pas fait ça. Le 14 juillet.
Non, mais tu crois qu'ils regardent ce qui se passe à Pau avant de faire le calendrier de l'UEFA ?
Non, c'est pas grave, il n'y aura pas les footeux pendant l'étape, c'est encore mieux. Non, bon, l'invitation est lancée pour vous les gars, pas tout le podcast.
Ah non,
pas les milliers de personnes qui nous écoutent.
Alors tout le monde, on postera l'adresse de Cécile sur les réseaux pour que vous puissiez tous venir.
Pas pour les milliers de personnes qui nous écoutent, mais pour vous les gars, si ça vous tente.
Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Et j'aimerais bien les rouler un peu vers les Pyrénées.
Bah ouais.
Parce que je n'ai jamais fait.
C'est à faire.
Alors... Ensuite, ils ont annoncé quelque chose d'autre sur le Tour de France.
Ouais, j'allais dire, il y a quand même un truc quand même qui est sacrément scandaleux, je trouve. Ils ont annoncé le Tour de France féminin aussi. Le parcours du Tour de France féminin.
Oui, c'est vrai.
Quoi,
ils passent la moitié du temps par France, du coup. Ils partent de Hollande, en gros. Ils partent des Pays-Bas. Je crois qu'ils font trois étapes dans les Pays-Bas. Une étape Belgique, où ils arrivent au niveau de la frontière en France. Et après, ils finissent par trois étapes en France. Mais du coup, ils font quatre étapes hors de la France. Et après, ils vont vers les Alpes et ils finissent à l'Alpe d'Huez. La dernière étape va être belle à l'Alpe d'Huez. Mais sinon, ils font quatre étapes hors de France et une étape donc, pour le Tour de France féminin. Quand c'est trois semaines, ça va
Là, excusez-moi, j'ai vu la petite vidéo YouTube. Je ne sais pas si on l'a entendu dans le micro.
Non, déjà le Tour de France, bon, à la limite ça va parce que c'est trois semaines, donc si tu fais trois étapes en Italie, bon,
est-ce que la Belgique, c'est pas déjà un peu la France?
Non, la Belgique, ils en foutent.
Wow, alors déjà, moi je veux pas de problème.
Voilà. J'ai ça nos amis belges.
Cela n'engage que Cécile.
J'assume.
Non, c'est quand même, je trouve, c'est un peu con. Enfin, après qu'il fasse un départ à Rotterdam, bon, pourquoi pas, mais qu'il fasse quatre étapes hors de France pour le Tour de France féminin, c'est un peu
con. Peut-être
quoi.
Qu'il y a trop de trucs.
Surtout sur un tour qui
fait
qu'une semaine.
T'as raison, avec les JO et tout. Bon.
C'est probablement la raison, mais non, même pas, parce qu'ils le font après les JO. Ouais, ils attendent la fin des JO, ils enchaîneront pas Tour de France hommes et femmes cette fois.
Ah bon, il y a combien d'écarts entre les deux?
Ils le font après les JO, du coup. Je crois que le Tour de France finit juste avant les JO, au moment où les JO commencent. Du coup, ils laissent après passer les JO et le Tour de France femmes passera après. Pas con, sinon
ce sera du 12 au 18 août.
Et voilà.
Après les JO de Paris.
Ce qui est plutôt malin.
Ce qui a du sens.
Voilà. Ça va être
le parcours, du coup,
sur les routes.
C'est vrai que le parcours, il y a plus d'étapes en dehors de la France que. De toute manière, c'est dur de faire un Tour de France en une semaine, en plus.
Déjà. Mais du coup,
si on pouvait rouler un petit peu plus.
Mais du coup, t'as qu'à faire autant essayer de les faire rouler en France.
Non, je peux pas.
C'était le petit coup de gueule du jour.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je trouve que si on fait qu'une semaine, c'est le Tour de France. Ils ont qu'à faire un Tour de Belgique.
Bah, y a, là, il y a autant d'étapes en Hollande que d'étapes en France.
J'ai envie de dire qu'au moins, ça vous fait parler, les gars.
C'est vrai.
Et bah, tant mieux.
Oh, mais moi, j'aime bien cette année. J'ai regardé toutes les étapes de Tour de France féminin. J'aime bien ça. Mais du coup, autant qu'elles soient chez nous.
Qu'on découvre nos belles régions, celles qu'on ne voit pas. Ouais, regarde ce qu'ils pourraient faire, c'est faire l'autre partie de la France. Faire l'autre partie de la France qui n'est pas faite pendant le Tour de France. Oh, là, il y a le nord, la Bretagne, ça ne passe pas du tout de ce côté.
Diagonale du vide,
on passe en pleine diagonale du vide. Massif, sur le Tour de France, oh, Massif Central.
Attention, l'étape du Massif Central, elle va être magnifique. Hein,
oui, mais c'est le vide.
J'ai cru que tu allais dire que Pau était la diagonale.
Non, mais attends, tu m'as pas laissé terminer. J'allais y venir. On fait Massif Central jusqu'à Pau, excuse-moi. Il y a trois pélos qui vivent. Il va y avoir trois personnes sur le bord de la route en train d'applaudir. Merci. Quoi.
De toute façon, il fallait pour les JO. Vu qu'ils n'avaient pas de police à cause des JO, ils sont obligés de faire ça. Ils sont allés là où il y a le moins de monde possible.
Ça, c'est pas faux, putain, ça va être bien. Du coup, ils vont arrêter de nous casser les pieds.
Et c'est ça aussi dont je voulais parler. C'est le point sur le Tour de France où ils ont annoncé pour sécuriser l'école, la course mise sur plus de cordages et moins de motos. Donc pour éviter, j'imagine, les problèmes.
C'est-à-dire plus de cordages
Sur les entrées, les arrivées de l'école.
Sur les arrivées,
tu pourras pas aller au milieu de la route, quoi.
Ah.
Comme ça, pour aussi et moins de motos pour éviter d'avoir.
Mais
tu peux
passer en dessous. Enfin, ils vont mettre des cordes, mais les gens peuvent passer en dessous, non?
Non, mais ouais, je sais pas si ce sera barrière ou quoi.
Ah ouais,
mais...
tu crois? Non, je crois que tu sais pas. Non, parce que
non, mais plus de cordages, t'as les gendarmes qui sont.
Et puis t'as les gendarmes qui vérifient
la route.
Oui, ben s'il y a pas de gendarmes parce qu'ils sont tous au JO, je pense.
Ah non, mais il y aura quand même des gendarmes, mais ça sera pas zéro flic.
Oh là là.
Ok, on verra. Mais bon,
Paris, c'est pas la France. C'est parce qu'il se passe un truc à Paris que tout le monde y va.
Ouais, enfin, on verra combien ça mobilise les JO.
Hein, ils sont obligés de mettre des flics. Surtout que les JO, c'est après quand même. Hein, c'est les deux événements sont pas en même temps.
Oui. Donc voilà, donc j'espère qu'on verra pas de problème de moto comme on a vu à plusieurs reprises cette année. Donc voilà, c'était aussi une des petites infos. Et ensuite, le dernier fait marquant du cyclisme, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. C'est les mouvements qui ont été effectués en termes de mercato du vélo.
Quelques transferts, oui.
Et dont le transfert le plus important, je pense, en termes de gros noms du vélo et de palmarès, c'est Roglic qui quitte la Jumbo-Visma pour aller chez la Bora-Sambro.
Oui.
Un avis?
Non, bah, de toute façon, il avait...
Du monde chez Jumbo.
Il avait plus sa place chez Jumbo. Il n'était plus le patron comme il était au début, donc je pense qu'il a juste choisi une équipe où il serait. Mais ceci dit, Bora, c'est quand même risqué parce qu'ils ont quand même déjà du monde.
Ils ont une bonne équipe déjà.
Ah oui, ils ont déjà Jain Blake qui est bon, après, leader.
Donc, ça renforce sûrement l'équipe, c'est peut-être bien d'avoir.
Oui, mais la question, c'est quel rôle il va avoir là-bas? Est-ce que ça va être le leader unique du coup? Est-ce qu'il va venir en co-leader?
Je
pense que si. Je pense que sinon, lui, il ne serait pas parti chez Jumbo, je pense. Je pense qu'il part justement dans le but d'être de nouveau le seul leader et de choisir les courses qu'il veut.
Il a terminé combien, Hindley, le Tour de France dernier?
Dans le top 10.
Dans le top 10, je ne me rappelle plus exactement lequel.
Puis après, Roglic, il a quand même gagné le Giro l'année dernière. Hein, c'est quand même pas, oui. Il n'est quand même pas non plus au fond du tour.
Roglic, il manque toujours juste le Tour de France. En fait.
C'est juste qu'en 3 semaines, il y a trop de chances pour se casser la gueule. Il
non, mais ce qui peut être intéressant, c'est par exemple pour le Tour de France, c'est du coup de ne pas avoir tous ces gros noms dans les mêmes équipes. Et bien, ça te met un peu plus de bataille peut-être, j'espère.
Et pour la Bora, ça leur fait deux personnes qui peuvent être dans le top 10, ça fait deux personnes qui sont...
Mais du coup, c'est là la question, c'est est-ce que ils
récupèrent Martinez aussi des Ineos, hein, la Bora.
Ah, oui, pour le coup, ça c'est un autre
pour épauler, j'imagine.
Pour les autres équipes, ça fait un peu de monde à contrôler. Chez la Bora, ça commence à faire un peu plus de monde à contrôler, quoi, à garder qui ont la pancarte.
Ah, ça soit ça, soit ils les font répartir. Peut-être que Martinez va être leader sur le Giro, ou Hindley sera leader aussi, sur la Vuelta, ou sur le.
Parce que Nils Polit de la Bora se barre à UAE, Team Emirates.
Ah, c'est bien, ça fait un bon renforcer
le. On va renforcer autour du petit Poggi.
Sur le plat,
Sur le plat, ouais.
Enfin bon, perso, moi j'ai
Sam Bennett qui va à G2R.
Ouais, bon, moi lui, c'est.
Oui, bon, c'est la fin.
Lui, il m'a fait bien terminer sur mon premier tour du peloton, là.
Tu l'avais mis lanterne rouge?
Ouais, non, j'avais mis maillot vert. J'étais la seule à avoir cru en Sam Bennett maillot vert quand on avait fait les foot du peloton. C'est pour ça que je n'avais pas terminé dernière. Ouais. Ma première saison, ça avait été un gros succès grâce à Caleb Ewan que j'avais mis lanterne rouge et Sam Bennett maillot vert. Ça m'avait bien apporté des points.
C'est vrai qu'il était.
Alors
il
moi, c'est mes petits chouchous, les deux.
Le Caleb Ewan, à chaque fois, soit il est lanterne rouge, soit il s'éclate sur le sol.
Ouais,
et après,
c'est
le
problème.
Puis là, il s'est foutu sur la gueule avec son équipe, en plus, le Caleb.
Ah ouais,
ah ouais,
bah, sur le Tour de France, oui, il s'était foutu.
Ah oui,
il était
sur
parti
le Tour de France, oui, oui, oui.
Il était parti un peu comme un sagouin. Quoi.
Ah, je ne me rappelais pas de ça.
Ouais, je l'aime bien, moi,
mais il y a aussi, il a failli se passer un truc dans le monde du vélo qui n'a pas eu lieu, mais une petite fusion d'équipes qui aurait pu créer plus qu'une grosse machine de guerre,
clairement,
qui était la Jumbo, aurait pu fusionner avec la Quickstep.
Ouais, la Deceuninck, quand même.
Alors, il me semble que tu as un peu plus de détails, Amaury, sur ça.
Bah oui, non, bah, non, mais le.
Au cœur du Tour de France, il
a été envoyé au charbon. Non, non, mais l'idée de base, c'est que déjà Jumbo va sortir du vélo. C'est-à-dire que Jumbo sponsorisera plus le Tour de France, sponsorisera plus le vélo à partir de la fin de l'année, je crois. Donc, c'est la dernière année où ils le font. Ouais. Donc, du coup, ils cherchent en gros des nouveaux sponsors maintenant pour prolonger l'équipe. Donc, une des options qui a été explorée et qui apparemment n'est pas passé loin d'avoir lieu, c'était de fusionner avec la deuxième plus grosse équipe probablement du peloton en ce moment, qui était Quickstep. Ce qui aurait du coup eu un paquet d'impact, parce que fusionner, ça veut dire certes, donc les budgets fusionnent, mais les équipes ne fusionnent pas vraiment. Donc, c'est-à-dire que tout le staff, et du coup dans ces cas-là, ça aurait été probablement le staff de Quickstep à aller plus avoir de boulot, et beaucoup des coureurs n'allaient plus avoir de boulot, donc, notamment Evenepoel, notamment Alaphilippe, ouais. Tous ces mecs-là allaient avoir leur contrat cassé. Donc, ce qui aurait eu un gros impact, ils ont tout changé probablement dans le peloton. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'ils devaient, en gros, ils avaient 2 semaines pour finaliser la fusion. Parce qu'en gros, je crois qu'ils avaient jusqu'à début octobre pour finaliser les effectifs ouais. officiels et pour enregistrer l'équipe comme une des équipes du World Tour. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'était trop serré vu tout ce qui devait se faire contractuellement parlant et compagnie. Donc du coup, ils ne l'ont pas fait. Ils ont abandonné l'idée faute de temps, mais ce n'est pas possible de se faire.
Moi, j'aurais été curieux de voir ce que ça pouvait donner. Mais bon.
Bah, oui, puis
on ne le saura pas, du moins cette année.
Ouais, non, puis surtout, on aurait eu Evenepoel qui partait probablement chez Ineos. Alaphilippe, on va voir où est-ce qu'il aurait été. Mais du coup, il y aurait aussi des transferts, des mouvements de coureurs qui auraient été intéressants à voir.
Alaphilippe, il aurait fini chez Cofidis.
Oui, bah, il va finir. Il aurait fini dans une équipe française probablement.
Ça va finir en France, j'imagine, pour le, ouais. Pour le Alaphilippe.
Pour le Alaphilippe. Allez, Alaphilippe.
Je regardais en même temps du coup Soudal Quickstep et il y a du monde qui s'en va aussi. Hein. Cavagna, De Clercq, Jacobsen, Sénéchal, des noms qu'on voit aussi sur certains classiques parfois.
Bah, y en a plein.
Il y a du monde qui arrive. Landa.
Ah oui, Mickaël Landa. Pour Eddy Evenepoel.
Ouais. Donc voilà, c'était le dernier petit point sur le cyclisme, ce qui nous amène maintenant à nos petites recommandations pour notre audience qui n'attend que ça que depuis le début de ce podcast. Alors, bah moi, ma reco, c'est facile. Je l'ai dit tout à l'heure. Basket Time, le podcast de RMC sur le basket. Il parle de NBA, il parle aussi parfois d'Euroleague et de Pro A. Donc, c'est assez. Et de basketteurs français en général. Donc, c'est assez cool. Ça donne un bon récapitulatif toutes les semaines de ce qui se passe un peu dans le monde du basket. Et puis, c'est assez rigolo avec Stéphane Brun et. J'ai un trou de mémoire. Pivot légendaire de l'équipe de France,
Fred
Weiss, exactement. Et puis d'autres présentateurs et intervenants, mais c'est toujours assez cool. Donc voilà, Basket Time en podcast.
Bien, bah du coup, si on est sur le basket, moi j'ai aussi une recommandation basket. C'est pas forcément la chaîne, bon, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle First Team, donc ça, je crois qu'on l'avait déjà, parlé, mais ils ont surtout fait il y a quelques mois une interview avec Nicolas Batum. Post-Coupe du Monde,
je l'ai regardé.
Qui dure pendant 2 heures, je crois que c'est 2 ans, ça remonte.
Hein.
Et en vrai, je l'ai trouvé génial parce que du coup, il est ultra transparent sur ce qui s'est passé et sur aussi qu'est-ce qu'il aimerait voir dans les prochaines étapes pour l'équipe de France pour qu'on performe au JO. Donc c'est en vrai super intéressant aussi. Du coup, ça permet de comprendre un peu les problèmes de transition entre les jeunes et les anciens qui se fait pas trop là en ce moment.
Ouais.
Donc en vrai c'est très intéressant parce qu'on leur a pas mal chié dessus après leur Coupe du Monde, mais du coup ça permet de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc je recommande. Donc, il y a 2 heures d'entretien. Et puis surtout c'est un peu dans l'actu parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a 2 nouveaux assistants là qui sont en train d'être. C'est pas encore signé, mais a priori on parle de Kenny Atkinson qui est l'assistant des Warriors, je crois en ce moment, qui était l'ancien coach des Brooklyn Nets.
Ouais.
Donc qui serait favori pour être un des assistants de Collet. Et on parle de Leandro Barbosa aussi, qui était un ancien coéquipier de Boris Diaw. et qui est aussi assistant coach au Kings, je crois, en ce moment, et qui serait aussi dans les listes pour devenir assistant. Donc, ils sont en train d'essayer d'élargir un peu le staff de l'équipe de France et d'aider avec des profils qui sont un peu différents, parce que pour le moment, tous les assistants, c'est que des anciens coachs de Pro A ou des coachs actuels de Pro A. Mais c'est pas très varié, on va dire. Donc là, ils essayent d'aller chercher des mecs de l'NBA, qu'on soit joué, soit entraîné en Pro A aussi, mais qui sont en NBA depuis un petit moment.
D'accord.
Donc bref, je recommande là, en tout cas l'interview avec Nicolas Batum, First Team.
J'avais vu et je peux que faire écho à cette recommandation. Cécile, t'en as trouvé une entre-temps?
Non, j'ai pas de reco, la taqueria à la Condesa Amsterdam, je n'ai pas de reco.
Pour tous les coureurs qui iront l'année prochaine au marathon semi et 8 km d'Amsterdam, n'hésitez pas à passer par ce petit restaurant mexicain.
Mais du coup, t'as pas parlé de Beckham?
Non, mais moi, j'ai pas aimé, donc pour le coup...
Ah, tu l'as pas aimé? Ah bah, écoute, c'est une non-recommandation, c'est bien aussi de le dire.
Non, moi, j'ai bien aimé Beckham.
Non, c'est pas affreux, mais je trouve que c'est un peu. Il y a des épisodes qui sont un peu longs, qui traînent un peu en longueur. Après, il y a des trucs intéressants, mais
c'est vrai. Il y a des trucs où je m'endormais un petit peu.
Moi, je l'ai pas vu.
Puis je trouve que ils ont un peu. C'est un peu. C'est bien scénarisé, on va dire. Que,
bah, c'est à la Netflix. C'est oui, sûr, voilà. Et c'est sur les sportifs. C'est comme quand il y a eu le reportage sur Anelka, le reportage sur Lucas Benzema, le reportage sur. Il y a toujours.
Ah, ils savent faire, ouais.
Ouais. Bah, toujours une belle histoire, quoi.
Ça se regarde, quoi, mais bon.
D'accord. Bon, bah, mais par contre, si vous êtes fan de Beckham, et moi, ce qui m'intéressait, par contre, c'est l'histoire, du coup, toute l'histoire du foot anglais, équipe nationale, que je connaissais pas du tout, par le fait que bah, j'étais très jeune et au final, la France performait de ouf. Donc, ça permet d'apprendre pas mal de choses aussi sur ce qui se passait au niveau des équipes nationales anglaises moment-là. Donc, c'était intéressant, du coup, pour avoir un peu plus de culture de ce côté-là. Donc, voilà. Bah, je pense qu'on arrive sur la fin. Si personne n'a quelque chose à ajouter,
rien
du tout.
Rien du tout.
Ok, bah parfait. Merci d'être venu.
Merci à toi.
Et puis je vous dis à la prochaine.
À la prochaine.
Salut.